T.
H. A.
R. L.
I. E.
Maintenant que l'on sait ça, on va pouvoir se remettre à jouer. What the Duck, deuxième. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode des podcasts What the Duck. What the Duck que vous pourrez retrouver en ligne sur notre site whattheduck.fr. Bien voilà, c'est la deuxième, on est en janvier 2015. Bonne année à tous et je me permets une petite présentation du podcast. C'est donc un podcast qu'on fait tous les mois qui dure... Là ça va être une version courte d'un podcast orienté un petit peu actu. Actu 2015, mais un petit peu notre actu, c'est un petit peu égoïste, mais on revient pas sur toute l'actu exhaustive, on va parler des sujets qui nous intéressent du moment. Voilà, il y aura plusieurs podcasts, styles de podcasts différents, là c'est un podcast un petit peu orienté actu. Que dire, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, ça y est, tout marche bien, on va mettre en place aussi le reste, c'est-à-dire tout ce qui est Android, etc. Le site web fonctionne, tout ça se met en place. Et on s'est tous retrouvés aujourd'hui pour débattre de sujets divers et variés. Il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de jeux violents, un petit peu de jeux glauques, tout ça. Je fais un petit tour de table. Mon petit Red, comment ça va?
Ça va bien, toi? Et vous, bien. Tout le monde va bien?
Jus d'orange, c'est frais.
Oh oui, on est toujours bien, on est là.
Patoun, comment ça va?
Ça va très bien.
Impeccable. Gaël, la forme?
Nickel. Un peu tôt, mais ça va.
T'as trouvé un pseudo?
Non.
Ce sera donc Gaël.
C'est ça.
Comme le pseudo que t'ont donné tes parents.
Ouais.
Mon cher Alex, gros, la forme?
Ouais.
Le mec est cool, quoi. Seb, bonjour.
Toujours très bien, toujours en forme. Voilà, on est parti pour le numéro 2.
Impeccable. Eh bien, écoutez, messieurs, mesdames, non, surtout messieurs, c'est parti pour le sommaire.
Donc au sommaire aujourd'hui pour ce numéro 2 de What the Duck, un programme très chargé avec les actus toutes fraîches des prochains jeux et notamment de Dying Light, notre débat mouvementé, des chroniques sur Watch Dogs et Bayonetta, notre rubrique What the Duck avec un quiz très particulier, et bien sûr tous nos What Else. On commence donc tout de suite par les news de Patoun.
Bonne nouvelle pour les amateurs de réalité virtuelle, puisque deux sociétés, Nimble VR et Certains Lab, travaillent sur des dispositifs permettant à l'Oculus Rift de détecter les mains du joueur. On aura bientôt droit à notre simulation de masturbation en réalité virtuelle. Moins drôle, le PSN et le Xbox Live ont été piratés par le groupe Lizard Squad pour les fêtes de Noël, ce qui a rendu les services des deux constructeurs inaccessibles. Encore une fois, Microsoft a démontré sa supériorité en termes d'infrastructure réseau en remettant ses serveurs en ligne au bout de quelques heures, là où il a fallu à Sony plusieurs jours. Après plusieurs jours de rumeurs, CD Projekt a confirmé la présence d'un second personnage jouable pour The Witcher 3. Il s'agit de Ciri, la sorcière aux cheveux blancs. Le premier épisode du prometteur Life is Strange de Dotnod sortira le 30 janvier et il sera proposé au tarif de 4,99€. Pour rappel, la série sera en 5 épisodes et qui seront tous vendus au même prix et un season pass au prix de 19,99€ sera proposé. Surprise, Forza Motorsport 6 a été annoncé. La voiture star du jeu sera vraisemblablement la nouvelle Ford GT et le jeu sortira très certainement pour la rentrée prochaine. La version PC de Metal Gear Solid Ground Zero se voit dotée d'un mod qui permet de faire le jeu avec une vue FPS. Et on connaît déjà le gagnant du prix du meilleur produit dérivé de 2015. Il s'agit d'un costume de Pikachu qui est constitué des oreilles qui tiennent via un serre-tête et de la queue qui se fixe via un plug anal.
Bravo. Ça, c'est intense.
Ça, c'est du plaisir, ça.
Bon, c'était varié. 10 points, qu'est-ce que vous avez retenu, Red?
Ce que j'ai retenu sur les news, déjà, je te dis que ça va, mais en fait, moi, ça va pas du tout. J'ai des gros problèmes familiaux du fait de notre premier podcast la dernière fois. Mon frère ne me parle plus depuis que je n'ai pas été capable de reconnaître Monkey Island dans le quiz.
À l'insulte, quoi.
Voilà, j'ai pas osé te le dire tout en blanc, mais c'est quand même un peu compliqué à la maison là, en ce moment.
Moi, j'ai retenu de des news que la masturbation de l'Oculus Rift.
Ça a bien commencé, il a bien fini.
Pour moi, la vraie news, Patou n'est pas venue dessus. La vraie news, c'est que Apple a cédé sous la pression du podcast What the Doc. Je sais pas si vous êtes au courant, oui. Mais.
Si, je suis au courant aussi.
Voilà, moi, je suis rassuré après toutes les manifestations qu'on a organisées. Finalement, la nudité est bienvenue dans Papers, Please. Et pour moi, c'est ça qui compte.
C'est ça qui compte.
Plus que Pikachu. Bravo. Et le plugin.
Sam, ouais, tu veux rebondir sur quelque chose dans les news de Patoon?
Non, pas spécialement. C'est vrai que les news un petit peu en dessous de la ceinture étaient sympas. C'est déjà pas
non,
si mal.
Il y avait des choses intéressantes. Hein. Enfin,
j'ai retenu que ça, en fait.
Un peu tout. Hein. Sur Lizard Squad, bon, on est... c'est bizarre. Enfin, que ces mecs-là, Microsoft et Sony, soient toujours amenés à se faire avoir. Je ne sais pas quel est le niveau technique de ces réseaux, mais... Enfin, ça fait des années qu'ils se font pirater, quoi.
Bon, après, le principe de l'attaque fait que peu importe les serveurs qu'on a, au bout d'un moment, ils finissent tous par tomber sur les noix sur des requêtes.
Par déni de service, là.
Ouais,
ou...
voilà, ouais, c'est une attaque DDoS. Donc, peu importe le serveur qu'on a, il tombe. Le vrai problème, il se situe du côté de chez Sony qui a mis plusieurs jours à rétablir les services, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ok, on enchaîne.
C'était Noël quand même, hein. Faut se mettre à leur place. Il n'y avait pas grand monde chez Sony. Hein.
Ah, bah, ils étaient occupés. La dinde et le marron, quoi. Ok, on enchaîne tout de suite avec les actus. Alors, pour commencer ces petites actus, nous avons Red qui a des nouvelles croustillantes du jeu. Alors, je sais pas si je prononce bien. Etrid, c'est comme ça?
Bah écoute, ma grand-mère est écossaise, donc tu prononces bien. Okay.
Avant juste que je te laisse un peu nous raconter tout ça, je voudrais qu'on écoute un petit bout de la bande-son du jeu, juste pour les âmes sensibles, protéger vos enfants, c'est un peu touchy.
C'est quoi?
Voilà,
j'ai bien aimé la musique.
Donc,
ça
envoie quand même du très très lourd. Pour ceux qui ont vu quand même les petites images du trailer, allez les voir. Mais c'est assez violent, donc vas-y, Red.
Bah, allez les voir ou pas, parce que c'est là toute la question. Moi, ça fait. C'est un jeu évidemment qui est polémique, j'ai envie de dire presque par nature. Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. En fait, on parle d'actu, le trailer est en ligne depuis le mois d'octobre. Et je suis tombé dessus et comme beaucoup j'ai été hyper interpellé et j'ai été vraiment même choqué de ce que j'ai vu. Ceci étant, c'est exactement ce que recherchent les développeurs, donc ils ont mis le doigt dessus.
Parce qu'en fait, c'est quoi comme jeu? C'est jeu vu de dessus.
Ouais,
c'est comme un LBA, quoi.
C'est pas seulement un jeu vu de dessus, c'est un jeu déjà où tu joues un psychopathe et tu tues tout le monde pour faire très très vite.
Le mec est révolté contre. Je sais pas quoi, il sort de chez lui et puis c'est
il
carnage.
Tue ouais. Il tue tout le monde, peu importe.
Il y a une raison pour tuer tout le monde, en fait. Il y a une base narrative.
Quand t'es psychopathe, généralement c'est une pathologie, donc il n'y a pas forcément une raison. En tout cas, les développeurs polonais se cachent vraiment derrière ce que je trouve moi être leur radicalisme. On peut aimer ça, le défendre, ou on peut le combattre et être très critique vis-à-vis de ça. En tout cas, il y a toute une petite histoire qui est en train de se mettre en place autour de ce titre. Hein. Il y a quand même eu des précédents. C'est pas le premier jeu ultra violent qu'on voit apparaître. Je pourrais citer Trevor, évidemment, récemment dans GTA V. Mais il y a eu aussi Postal.
Les premiers GTA.
Manhunt, même Carmageddon, auquel j'ai joué. Enfin bon, il y a eu pas mal de choses.
Les Sims.
Les Sims Gore qui se revendiquaient
t'enlèves l'échelle de la piscine
derrière Doom ou Kingpin, enfin bref. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu a débarqué comme ça un petit peu en actu, il était greenlighté sur Steam et ouais. Donc il y a quand même des gens qui sont demandeurs de ce genre de choses et il a été retiré en fait par Steam qui ont dit bah en fait non on va pas le vendre sur notre plateforme, donc ça a créé pas mal de remous et puis au final Gabe Newell a finalement envoyé un mail aux développeurs pour leur souhaiter bonne chance avec leur jeu et leur dire que finalement le jeu était maintenu sur Steam.
Maintenu.
Ouais, il est maintenu. Ouais.
Donc mais là, il voulait l'enlever uniquement à cause de l'extrême violence du jeu.
Non mais attends, quand tu vois le trailer,
ah oui non mais c'est très, très 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 hard.
On peut vraiment se poser des questions. Moi c'est un petit peu l'objet de ma news parce que j'arrête pas de me poser des questions.
C'est même pas des victimes collatérales quoi. C'est
gratuit.
Des
non c'est gratuit.
C'est purement gratuit donc il faut vraiment penser que le but du jeu c'est simuler le comportement d'un psychopathe, c'est-à-dire te mettre dans la peau d'un tueur et te faire ressentir ce que c'est que de tuer quelqu'un. Donc tu parlais de vue de dessus, le jeu est quand même assez stylisé, il est fait tout en noir et blanc avec des gerbes de sang rouge, mais t'as quand même des finish moves qui sont très très réalistes où tu peux planter ton couteau dans le crâne de ta victime, vraiment lui faire ouvrir la bouche, lui faire péter la cervelle. Non,
mais surtout
avec ton
vois les victimes qui implorent
la survie, enfin, pardon, quoi. Pitié, enfin, ce qu'on veut. Quoi, ouais.
Alors, ce qui s'est passé, c'est surtout qu'il y a pas mal de détracteurs du titre qui se sont fait l'écho de certaines affiliations entre l'équipe de jeu, donc Destructive Creations, et des mouvances néo-nazies polonaises.
C'est-à-dire, je crois qu'il y avait un développeur qui, sur sa page Facebook, avait liké une page
pas qu'un en fait, le directeur du studio, certains artistes, donc il y a par exemple des artistes 3D qui font aussi du tatouage et dont on a pu tracer qu'ils avaient fait des tatouages vraiment limite en termes de symbolique, enfin bon, ces gens là ont une vie privée, ils ont une vie politique, à la rigueur ça ne nous regarde pas. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de savoir s'ils passent quelconque propagande au travers de ce titre, ce qui a priori n'est pas le cas, mais ça a fait beaucoup de critiques.
Et je termine juste parce qu'on l'a pas dit, mais donc ils avaient liké des pages affiliées à des groupuscules nazis ou ce genre de choses. Quoi.
Ouais,
peut-être qu'ils se blindent au cas où.
Non, c'est pas ça.
Comme
c'est
en 40, ils étaient un peu surpris, peut-être que.
Alors c'est là où c'est vraiment très bizarre, c'est que les excuses qui ont été faites par le studio, parce que le studio a mis directement sur sa page Facebook une déclaration comme quoi ils n'étaient absolument pas affiliés à quelconque groupe néo-nazi. Ouais. En fait, le mec a dit qu'il avait liké cette page parce que pour lui, c'était un moyen de rester informé sur ce qui se passait au Moyen-Orient, etc. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que les mecs sont vraiment très borderline, mais pour rester sur des sujets normaux, puisqu'on peut, encore une fois, un tel jeu peut exister et de fait existe, on n'est pas là pour le critiquer, on est juste là pour en parler, c'est que, par exemple, le trailer démarre sur le logo de Epic, puisque
c'est l'Unreal Engine,
exactement, et Epic n'était pas du tout au courant. L'utilisation du logo s'est fait sans leur accord, même si les mecs utilisaient la technique sont pas censés utiliser ce logo comme ça à tort et à travers, et donc c'était vraiment pour légitimer leur travail. Bon bref, donc c'est un petit peu limite mon avis, en tout cas moi il est un peu bouillonnant à ce niveau là il est pas forcément arrêté. Le studio appuie beaucoup sur le fait que le but de leur jeu, c'est aussi de prendre le contre-pied de tout ce qui se fait aujourd'hui sur la violence, c'est-à-dire de ne pas montrer la mort de façon cartoonesque, de la montrer telle qu'elle est, etc. Moi, je pense que ça pose surtout la question de savoir si le jeu vidéo, encore une fois, est un jeu ou un jouet. Est-ce qu'il est un jeu comme un jeu de rôle ? En tout cas, peu importe, parce que pour moi, dans les deux cas, quand je regarde la proposition du titre, simuler d'aussi près le comportement d'un psychopathe, c'est juste pas du tout ce qui m'amuse et pas du tout ce que j'ai envie d'être.
Mais du coup, est-ce que, voilà, là pour les 6 qu'on est, est-ce que ça vous intéresserait de jouer à un jeu comme ça ? Est-ce que ça vous intrigue, Alex, Seb ?
Pour moi, pas du tout. Hein. Vraiment, c'est me mettre dans la peau d'un psychopathe, c'est pas mon trip du tout. Hein. Je préfère vraiment d'autres expériences que ça. Vraiment, moi, ça me touche pas du tout. Hein.
Gros ?
Alors moi, je me mettrai à part sur le débat. Par contre, j'aimerais bien voir à quoi ressemble le jeu, quel est le gameplay et quel est le but autre que tuer tout ce qui bouge.
Bah, il n'y a pas d'autre but.
C'est vous sûrement casser des caisses.
Voilà, casser des caisses.
Alors, est-ce qu'il y a un mode coop ?
Pour l'instant, on en sait très peu hein, sur le jeu. Il n'y a même pas encore de date de sortie. Hein, donc, moi, je suis un petit peu interpellé par ce genre de titre. Jusqu'à maintenant et encore plus aujourd'hui, je suis évidemment pour la liberté d'expression. Je sais pas encore si je suis pour la liberté d'interaction.
Le public choisira.
Et ça, c'est une question de société. Là, on repart vraiment sur des sujets d'actualité, même savoir à quel moment on dépasse la ligne. À qui peut l'atteindre en fait ce jeu-là, parce qu'il faut avoir aussi des barrières.
Les ventes nous en parleront quoi.
Ouais. Alors quand même, ce qui est pour conclure. Moi je veux pas du tout critiquer les gens qui seraient intéressés par ce titre. Il y a plein de gens qui voudraient jouer à ça, et jusqu'à preuve de contraire ça reste encore un jeu vidéo. En tout cas, si moi on me posait la question, je ne serais pas intéressé par ce type de jeu. Mais il faut quand même souligner que il y a une vraie corrélation qui a été faite entre la sortie des jeux vidéo dits violents et la baisse de la criminalité. Ça, c'est quelque chose qui est scientifiquement montré. Donc, si ça peut avoir un effet cathartique ou exutoire sur certains, c'est très bien, et tant mieux si ça doit exister. C'est juste que voilà, je pense que ça doit nous faire.
C'est un jeu médical qu'un mais jeu ne, pour le jeu.
En tout cas, ça doit nous faire poser quelques questions.
À ne pas mettre entre toutes les mains.
Certainement.
C'est exactement
pas.
Ça.
Ok. Bon, merci Red. C'est ce jeu intrigant et ultra ultra violent. On va passer à un autre actu d'un jeu aussi violent, mais un peu moins trash. Eric, enfin GP, pardon.
Ouais.
La puce.
Dying Light. Ouais, c'est vrai. Dying Light, on change. C'est toujours. On change. C'est un peu plus léger comme sujet. C'est un jeu vu à la première personne contre des zombies. Dying Light, c'est développé par Techland, et c'est eux qui ont fait Dead Island il y a quelques années, qui était une grosse surprise, qui s'est pas mal vendu, qui s'est même très bien vendu. C'est devenu une licence. Dead Island, vous vous retrouviez sur une île déserte, une sorte de Far Cry à la première personne. Pas île déserte d'ailleurs, île plutôt balnéaire. Il y avait
touristique.
Touristique. Il y avait des plages, des bungalows, un hôtel, une piscine, plein de piscines.
On se rappelle tous de la bande-annonce du trailer.
Trailer. Ils avaient misé leur vente surtout sur un trailer très réussi, à l'envers, avec une musique au piano, je crois, etc.
C'est ça.
C'était vraiment.
En tout cas, ça m'avait frappé.
Ouais. Le jeu avait pas grand-chose à voir, mais d'ailleurs, il avait été un petit peu critiqué là-dessus. Reste que c'était le jeu n'avait pas été très très bien noté, mais moi j'y ai joué avec un ami en coop, et c'était une expérience assez fabuleuse. Non, pas avec toi Gaël.
Si, on y a joué,
on
à
y a
3.
Joué un petit peu,
on y a joué à 3. Fait.
Puis après tu t'es tordu la cheville au niveau 5 et puis
c'est
t'as
ça.
Arrêté de
jouer. Tombé dans la piscine et je me suis fait manger par les zombies.
J'ai pas pu remonter. Mais franchement, en coop, c'était une super expérience. Les deux premiers actes, notamment sur la plage et puis après dans la ville, étaient vraiment vraiment bien. C'est-à-dire que vous pouviez crafter des armes, il y avait des missions secondaires, on aidait un petit peu les survivants, il y avait des véhicules, on se baladait, c'est une sorte de Dead Rising comme ça, avec un peu moins de zombies, mais des zombies un petit peu plus cachés, c'est-à-dire il y a des cadavres qui se relevaient, il y a des mecs dans la piscine qui flottaient et qui se relevaient.
On était... Une question GP, ouais. Là on est en train de parler de Dead Island ou
oui,
de...
Oui,
on
parle de Dead Island.
Je parle de Dead Island parce que...
Ouais. C'est important de parler de ce jeu parce qu'au niveau d'actualité, je crois que c'était celui d'après, non, c'est ce.
Bah justement, il y avait un Dead Island, ils développaient un Dead Island 2 et en fait, c'est Dying Light. Techland a un petit peu refilé la licence Dead Island que l'éditeur essaye de maximiser. Ils ont fait plusieurs petits jeux un petit peu merdiques sur le sujet, notamment Dead Island Riptide qui était vraiment pas terrible, qui était une ressucée. Il n'y avait rien de nouveau.
Du 1.5 quoi en fait.
Ouais,
pas
du 1.1. Moi j'y ai joué, j'ai trouvé ça tellement du plagiat, c'était honteux. Reste que là c'est leur vrai nouveau projet. Les mecs se sont fait pas mal de thunes avec Dead Island. Ils ont tout remis dans Dying Light. C'est pareil, sauf que c'est que dans la ville. C'est pour la nouvelle génération de consoles. C'est, graphiquement ça a de la gueule.
Normalement ça doit sortir quand en fait?
Alors,
ce chef d'œuvre.
Ouais, ça sort en fin janvier là, ça va bientôt sortir, mais il y a des rumeurs comme quoi il va être repoussé. Mais les nouveautés c'est quoi? C'est toujours du coop à 4, vu à la première personne, des armes qu'on peut crafter, beaucoup de zombies. La journée, vous êtes le chasseur, tous les zombies sont assez faibles, assez fragiles, et puis la nuit, vous êtes le chassé. Il y a des nouveaux types de zombies, les autres sont plus vifs, plus réactifs, ils ont le sang froid.
Petite question, il y a un mode solo ou pas?
Tu peux jouer en solo, sauf que
comme
c'est
Dead
peu,
Island en fait, tu
c'est
peux
un
jouer
peu comme
tout seul,
mais c'est pas,
mais
c'est pas
plus
le meilleur,
fun, je pense, de jouer à plusieurs.
Ouais, c'est une bonne question, mais c'est un petit peu comme un MMO, c'est-à-dire tu peux jouer en solo, mais les missions sont assez standardisées. Ouais, Patoun.
Ouais, petite question parce que quand ils ont fait la promo du jeu, on n'avait rien sur le contenu, sur le scénario, quoi, s'il y en avait un.
Ah oui, ça. La narration.
On voit juste un mec courir, fuir les zombies ou les tuer.
C'est vrai.
Et est-ce qu'il y aura quelque chose du contenu au lieu
alors,
de
j'ai
juste
pas,
courir partout?
J'ai pas non plus beaucoup d'espoir parce que Dead Island, les personnages que tu jouais étaient absolument pas charismatiques. L'histoire était un peu naze. Enfin, c'est des missions quoi. Mais c'est plus l'immersion. Tu te fais ton histoire quoi. C'est-à-dire vraiment, t'as des outils qui te permettent à deux.
Je crois que c'est un très
me chercher
très
avec
ils
la
ont prévu
voiture.
Un grand open world, enfin, qui est assez immense quoi. Ouais.
Et puis surtout, oui, c'est vrai, t'as une ville complète, et puis t'as l'utilisation du de body awareness, c'est-à-dire que vraiment, tu peux courir sur les bâtiments, sauter, te grappiner,
Te grappiner.
Ne pas oublier le gras parce que sinon,
ceci est un nouveau mot français.
T'as un grappin, je crois, c'est plutôt assez cool et c'est... Voilà, t'as des armes électriques, des armes qui font du feu.
C'est un peu un mélange entre un ancien jeu qui était sorti, Mirror Edge en termes de gameplay, ouais. Et Dead Island, en fait.
Qui a fait un flop, hein, mais il y a un nouveau qui va
Mirror
arriver.
Mirror Edge, oh, il était génial.
Ah, si, ça l'empêche très, pas, très bon. Ça l'empêche
en
pas
gameplay,
d'avoir fait un flop.
C'était vraiment... ouais. L'histoire était simple et t'avais vraiment une difficulté pour le coup pour le, dans le jeu. Quoi.
Non, il était pas mal, bof, bof. Vraiment très bien.
Est-ce que c'est le genre de titre qu'on pourrait voir apparaître avec une compatibilité réalité virtuelle, tu penses ou...
Bah, franchement, ouais. Alors, ça irait
parfaitement.
La tête a l'air de bouger pas mal parce que pour utiliser le grappin, il faut regarder en l'air, regarder au sol, etc. Donc, à mon avis, tu dois vite te faire un torticolis.
Bonjour la nausée, ouais.
Bonjour la nausée, ouais.
Oui, parce qu'avec tous les rebondissements quand tu sautes sur les murs,
rien que la vidéo que vous pouvez avoir sur internet, en termes d'immersion, si t'aimes bien ce genre de jeu, je pense que ça tape assez fort. Et alors, en coop, je pense
en
que
ça va être une vraie tuerie, quoi.
J'espère qu'ils vont réussir à reproduire l'ambiance et l'immersion que j'avais dans le 1. On verra ça, mais j'ai pas mal d'espoir. La fin janvier, il n'y a pas beaucoup de titres et celui-là me plaît beaucoup.
Bah merci, j'ai pu pour ces actus. Pas de questions ?
Pressé de tester.
Ok. Donc, c'est quelle date, redis-nous ?
Fin janvier, ceci à report.
Oui, donc fin août. Ok, donc on enchaîne tout de suite avec notre débat.
Le sujet, c'est que...
On connaissait l'addiction aux jeux vidéo.
C'est un phénomène mondial. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer.
Un écran peut vite vous rendre accro et vous faire perdre les réalités de la vie quotidienne.
Quand tu connectes un disque dur externe via un port FireWire, est-ce que tu rebootes en mode sans échec ?
Je crois que vous m'avez mal compris.
Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporg.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Alors, pour le débat du jour, nous allons parler des PEGI. Vous savez, tous ces petits symboles imprimés sur les boîtes de nos jeux qui ont débuté, je ne sais pas si vous savez, l'année du début des PEGI. Petit cru.
2003.
Bien vu, Seb. Oui. Donc ça va, alors, pour ceux qui ne sont pas tous au courant, ça va de 3, 7, 12, 16 et 18. Et on rajoute même les PEGI 4 et 6 pour le Portugal. C'est uniquement pour eux.
À Dibou, je crois que c'est pas 4 parce que c'est violent.
C'est un peu hardcore, Dibou, quand même. Donc voilà, les PEGI, alors est-ce que cette signalétique est toujours crédible un peu pour le public ? Est-ce que finalement tout le monde s'en fiche un peu et qu'on doit la supprimer ? Et est-ce qu'elle est vraiment appliquée un peu par les parents ? Qu'est-ce que vous en pensez, Seb ?
Les conseillers, les vendeurs, est-ce qu'ils font vraiment attention ? Est-ce qu'ils font vraiment attention aux enfants, à qui achètent un jeu ? Est-ce qu'ils peuvent faire... Ils s'en fichent, à mon avis, hein, les vendeurs, du moment qu'ils vendent leur jeu. Pour une chose, les parents ne regardent pas non plus.
C'est pas une interdiction de vente.
Oui,
le PEGI n'est pas une interdiction.
Oui, exactement.
Mais c'est juste
c'est une signalétique, quoi, tout simplement. On fait
c'est
ce qu'on a envie.
Le fait que ce soit pas une interdiction de vente, ça fait peut-être un peu aussi partie du problème. Parce que... certes, ça fait une indication aux parents, mais le fait que ce ne soit pas respecté, ça fait que dès qu'il y a un jeu un peu violent qui sort, ça fait tout un débat. Qui est...
Alors maintenant, va falloir faire attention aussi aux signalétiques sur les jeux, parce que des fois, il y a des jeux qui sont à 12, tout le monde pourrait les avoir. Je crois qu'il y a un Pokémon qui est par, comme ça, Winazuma 11, qui était à 12+, et en fait, n'importe qui peut y jouer.
Alors, il faut voir que la signalétique, c'est vraiment... un mot grossier peut être considéré comme un 12 facilement.
Mais je pense qu'il y en a qui ne regardent pas. Et puis, l'autre jour, je regardais un forum, t'avais des parents qui demandaient pour GTA... Bonjour, le jeu est 18+, mon enfant a 12 ans, est-ce qu'il peut y jouer parce que quand même le jeu est bien. Dis donc, et franchement là si t'as pas tous les indices...
ça c'est aussi pour le coup une mauvaise éducation des parents, c'est que...
Alors, pour revenir... Pardon,
vas-y, à toi.
Non mais pour revenir sur ce que disait Patoun, je pense qu'il a raison, à partir du moment où on est sur une mesure qui n'est qu'incitative, elle est par nature un peu... enfin elle est peu crédible finalement. Si du jour au lendemain on avait... une mesure qui était beaucoup plus restrictive comme au cinéma par exemple ça prendrait plus de valeur aux yeux des parents les médias en parleraient d'une manière différente si on était sur un jeu qui était plus 18 interdit au moins de 18 ans ça serait pas du tout le même regard qui serait porté sur cette norme.
Donc après c'est carte d'identité pour les plus jeunes quand on a un doute, après c'est plus d'obligations pour les vendeurs, pour les conseillers, mais moi je serais pour hein, aussi, hein. Je serais peut-être le vieux archaïque. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'intéresserait, ça.
Ouais, et ce qui est assez bizarre, c'est que je pense que les gamers sont relativement d'accord sur cette question. Je rigole parce que
non,
je suppose
vrai,
parce que si nous-mêmes, si nous-mêmes on était moins
on
de 18,
on s'est déjà tous posé la question.
Oui, et certainement si on avait moins de 18 ans, on se débrouillerait pour essayer quand même d'avoir accès à ces jeux d'une manière ou d'une autre, comme ça nous avait peut-être déjà arrivé quand on était plus
bon,
jeune.
C'est vrai qu'à partir de 16 ans, je pense. Que...
Pour moi, le problème c'est un problème de responsabilité de vente. Mmh. D'éducation
pour
au
moi
niveau...
c'est plus les familles mais
alors oui
parents.
Au niveau des parents moi je sais que je suis pas encore parent mais quand j'aurai des enfants c'est vrai que je ferai très attention étant gamer moi-même
mais c'est ça tu as la culture
j'ai la culture derrière
aujourd'hui
voilà.
Les parents les grands parents qui les parents et les grands parents qui vont acheter des jeux vidéo soit pour des cadeaux soit sur la pour la demande de leurs enfants ils ont pas forcément cette culture du gaming donc en fait c'est pour ça que je te parle des vendeurs parce que pour moi c'est la personne référente. En l'occurrence, c'est l'adulte référent. Quand tu as un môme qui demande à jouer à du Call of, à jouer ou à n'importe quoi,
ça,
ou à du Hate Raid, comme on en parlait tout à l'heure.
Un embrigadement aussi des développeurs, c'est-à-dire quand la cible des Call of Duty et des GTA, c'est les 13-15 ans, alors que le jeu Call of Duty, je ne sais pas quel est l'âge du jeu, mais ce n'est pas à partir de 13 ans, à mon avis. J'en sais rien.
Call of Duty, ça doit être un 16.
Non, c'est 16.
Ou 16. 16.
C'est 16.
Ouais. Alors que
la plupart des Call of, c'est du 18+. Il y en a un ou deux qui sont 16+.
Tu vois, c'est marrant.
Dès
alors que
où
je suis sûr
gens,
que leur campagne marketing, c'est pour les 12-16 ans aussi.
Ouais, et c'est que des mineurs qui
là,
jouent.
Là, je sais que le dernier Call of, c'est du 16+. Maintenant, je me demande si le Modern Warfare 2, avec la fameuse scène dans l'aéroport où on tuait des civils à foison, s'il n'était pas passé...
Warfare,
ouais.
Warfare, d'accord. Non, parce que...
Warfare.
Il y a un petit côté espagnol, c'est ça
si.
Ou...
C'est. Call of Duty, Warfare. Modern Warfare, DOS.
Mais du... Enfin, c'est un peu... est-ce que aussi des jeux, peut-être, des fois, sont surnotés?
Tu veux dire en niveau signalétique, c'est-à-dire
oui,
au niveau de l'âge, ça montre très
vite. On voit vraiment que la signalétique est vaste, parce que deux jeux interdits au moins de 10... Enfin, déconseillés au moins de 18... des fois n'ont pas du tout la même on va comparer c'est... je vais comparer Evil Within je crois qu'il y a moins de 18 ou moins de 16
je crois que c'est peut-être ça doit être 16 à mon avis
16
je crois.
Et un GTA bon qui est 18 sans problème alors que on va dire qu'il y a un gameplay Evil Within qui est plus horreur qui est plus qui peut peut-être faire plus peur aux enfants alors que GTA va être plus dans l'incitation et ça va être dans le Les jeunes vont avoir envie de reproduire ce qu'ils ont vu dans le jeu, alors que Evil Within, c'est vraiment psychologique, la peur primaire. Quoi.
C'est vrai que les plus jeunes, ils ont un esprit de contradiction, donc dès qu'ils vont voir 18, ils vont se dire « Ah, il faut que je l'aie pour pouvoir l'essayer ». Mais il faudrait que ça soit un petit peu plus appliqué plus durement, à mon avis.
Pour moi, c'est bien qu'il y ait une législation qui a été faite comme ça en 2003. Je ne sais pas, en 2003, c'était quoi? C'était GTA 3 c'était... Je ne sais pas pourquoi c'est apparu.
À propos, on n'a pas dit ce que ça voulait dire PEGI. C'est Pan European Gamers Information, je crois.
Exactement, voilà. C'est quand même une norme européenne. Peut-être que c'est aussi historique. On n'a pas hyper bien bossé le sujet, apparemment.
Non, mais,
avant 2003, c'est-à-dire que les seules confrontations à l'âge du joueur pour certains jeux vidéo, je crois que c'était... lors des procès de Famille de France qui...
Non, je crois que c'était les éditeurs qui mettaient derrière les boîtes interdits au moins de 16 ans, 18 ans, mais il n'y avait pas
c'était
de...
C'était eux qui définissaient.
Mais d'ailleurs, le PEGI,
ça, en fait.
C'est une norme créée par les éditeurs, c'est le CEL qui a créé ça.
C'est peut-être pour ça aussi que ça incite, mais ce n'est pas obligatoire, parce qu'ils font quand même du lobby pour pas que ça devienne... C'est leur propre... organisme neutre de notation,
il faut voir aussi qu'il y a les Allemands qui ont leur propre signalétique. Quand on voit des fois sur les boîtes, on voit une signalétique européenne entre guillemets et puis une autre signalétique à côté. Par exemple, on peut les voir des fois sur les.
Parle bien dans ton micro.
On voit par exemple ça sur les nouvelles boîtes. On voit deux logos dessus. Le PEGI plus une autre
de
qui est une
vraie
de classification et on m'a toujours dit que c'était les Allemands en fait qui avaient leurs propres règles.
C'est possible.
Et ça va être harmonisé.
Et les Allemands, ils auront toujours leurs propres règles parce qu'ils ont un passé qui fait qu'ils sont un petit peu plus sensibles.
Non, maintenant c'est dans les tuyaux. Il faut que les règles soient harmonisées, donc on va avoir une signalétique PEGI qui sera vraiment européenne sur l'Union européenne.
Red.
Pour revenir sur l'historique de la chose, on peut imaginer aisément que la norme est devenue nécessaire à partir du moment où le contenu est devenu de plus en plus adulte. Quand on est passé de jouets à des choses plus adultes pour accompagner une cible qui était mûrissante, vieillissante, dont je fais partie.
On fait tous partie de ça.
La question a dû commencer à se poser simplement de comment est-ce qu'on pouvait éviter que des enfants en bas âge ou des enfants trop jeunes mettent la main sur un contenu qui n'est juste pas destiné pour eux. Donc pour moi, ça ne me choquerait absolument pas que la mesure soit plus restrictive.
Donc après, maintenant, c'est au niveau des parents. Tout simplement, c'est au niveau des parents de faire le nécessaire pour regarder juste les boîtes, faire attention. Quand on aime ses enfants, on va faire attention que tout ne soit pas... je sais pas, je suis pas non plus liberticide, hein, mais il va falloir regarder. Faudra... Quand on s'intéresse à ses enfants, avec notre culture à nous, parce qu'on parle entre gamers. Mais il faudra faire extrêmement attention.
Ouais, voilà. Comme je te dis tout à l'heure, hein, on va pas faire le débat là-dessus, mais tu parles des parents, et c'est vrai, pour moi, c'est pas les parents la cible principale là-dessus, ce sont les diffuseurs. C'est eux qui sont responsables. Oui, parce que si tu as 16 ans, 15 ans, 14 ans, tu n'as pas besoin toujours de tes parents pour aller acheter ton jeu.
C'est vrai, mais c'est vrai.
Donc tu peux les court-circuiter et aller acheter.
Donc c'est après aux conseillers, aux vendeurs de faire attention.
C'est aux législateurs surtout.
Voilà, aux législateurs.
Mais du coup, est-ce que des fois mettre un pays 18 ou mettre des petits pictogrammes avec de la violence ou du sexe ou de la drogue, c'est pas aussi de l'incitation à l'achat pour certains ?
Donc on va
c'est-à-dire
revenir.
C'est-à-dire que c'est le Peggy est peut-être aussi un.
Bah tout à l'heure on parlait de Hatred, tu vois par exemple.
Ça fait 18 plus.
Là le jeu est esthétique en lui-même, mais le seul intérêt du jeu c'est le buzz qu'il y a autour de lui. C'est ouais, là-dessus que est basée toute leur campagne.
D'ailleurs
de
les développeurs ont remercié pour bien sûr la pub gratuite qu'ils ont eue.
Et d'ailleurs on en parle et le fait rien que d'en parler en fait ce genre de titre si tu es détracteur tu en parles parce que tu ne veux pas que ça existe donc t'en parles et si tu aimes tu en parles parce que c'est bien donc dans tous les cas t'en parles.
Vous pensez véritablement que les développeurs ils se disent on va faire un 18+, il faut qu'on atteigne le 18 pour faire vendre un jeu.
Bien sûr
c'est vrai
bien sûr, c'est
tu sais le jeu là Hatred c'est juste une sorte de un shoot 'em up standard tu vois.
Et puis il n'y a pas de demi-mesure sur ce jeu là
hein,
de toute façon
ouais. C'est vrai.
C'est interdit. Alors là, moi, j'ai un petit souci sur ce genre de normes. Personnellement, en tout cas, entre 16 et 18, j'ai toujours été aussi bête. Je vois pas la différence. Moi, je trouve que la norme est à refaire.
C'est plus sexuel que violence.
Alors, en fait, la différence entre 16 et 18, c'est que le 16, ça va être de la violence explicite, par exemple, alors que le 18, ça va être de la violence graphique.
Mais c'est vrai
que les petites différences, les langages vulgaires, ça c'est compris dans les deux. Le sexe, c'est aussi compris dans les deux.
C'est bien ce que je disais. Je suis suffisamment bête pour pas faire la différence.
Après, c'est juste un niveau. C'est juste un niveau de. Si il y a quelques petites références sexuelles, ça va être un 16. Par contre, si on voit vraiment de l'acte un peu à la GTA.
Sanguinolent ou on voit le sang.
Ça, c'est un peu de l'esbrouf, quoi. Mais
c'est vraiment.
Un jeu 16 est vendu dans les mêmes rayons, donc les mecs, ça leur convient. Et non, ça fait un peu de buzz.
Comme je disais tout à l'heure, tu parlais de liberticide. D'abord, il est pas. Le but, c'est pas que tu ne joues jamais à ce jeu. Le but, c'est qu'on te dit, tu y joueras quand tu seras plus grand. Et encore une fois, nous-mêmes, on a déjà eu accès. À des contenus
mais oui, totalement, quand plus jeune.
Qui n'étaient pas forcément destinés à nous. Ouais. Le but, c'était pas.
Duke Nukem, par exemple.
Le but, c'est de rendre au moins ça compliqué.
On va en parler. Ouais.
De rendre ça compliqué et de pas faire fi de ce qui existe, de pas être dans le déni par rapport à ça. Il y a une responsabilité encore à avoir sur le contenu qu'on propose aux jeunes esprits. Donc, c'est juste ça qu'il faudrait limiter, contrôler et non pas interdire purement et simplement.
Donc, juste une dernière chose, pourquoi pas faire dans les grandes. Je peux dire les noms des marques, Fnac. Donc voilà, il n'y a
faut
pas de souci.
Trois.
Voilà. Bon, alors j'en ai aucune idée.
Fnac, donc.
Fnac, Micromania, je sais pas. Darty, Games, ils sont morts. Mais juste
aucune
pour
marque
dire.
De bière.
Et puis,
ah non, pas du tout.
Puis Bébert au bout de la rue.
Juste pour dire, pourquoi pas faire. Ils ont des rayonnages, pourquoi faire des rayons, voilà, par pays 3, 7, 12, 16, 18. Ça peut être aussi très rapide pour les parents de voir ça, avec un petit logo juste sur le côté. Et puis on sait que très facilement les vendeurs ils verront la différence et les parents aussi. Ça peut être une solution, peut-être pas la meilleure parce qu'on peut toujours trouver mieux, mais ça peut être une solution.
Parce que pour répondre à ce que tu dis, c'est pas les parents qui vont acheter les jeux, c'est les joueurs. Et eux, le Peggy, ils s'en foutent un peu, ils s'en foutent complètement même.
Voilà. Alex,
Vas-y, Patoun, t'arrives.
La seule arme que les parents peuvent avoir, c'est les contrôles parentaux qu'il y a sur les consoles actuelles. Voilà, avec ça, ils peuvent gérer.
Les parents et les consoles, ça
jeu.
Fait deux.
Oui, Patoun, mais méfie-toi, ça... parce qu'il y a des jeunes parents maintenant.
Les gamers deviennent parents, donc ça va peut-être changer un peu.
Ça va changer très vite.
Patoun, juste pour te dire, ouais, mais les parents, ils ont maintenant, ils ont beaucoup à ce qu'on disait juste un instant. Je vais le redire encore une fois. Les parents, comme les vendeurs, ils ont un droit de regard. Et donc, après, c'est une responsabilité collective. Donc, si on se retrouve avec un enfant de 12 ans avec un 18+, c'est une. Voilà.
C'est un problème d'éducation.
Après, il y a un problème d'éducation. On va aller plus loin. Après, c'est.
Voilà. Alex, non, tu voulais réagir quand on parlait de Hatred, je crois, il y a 25 minutes. Non. Parce qu'il a du mal à prendre le micro. Alors.
Non,
je voulais dire bonjour aussi.
Je voulais revenir sur le fait qu'on est aussi sur quelque chose de commercial, que ce soit du côté des éditeurs ou des magasins qui distribuent les jeux.
Ouais, c'est pour légitimiser.
Faire des rayons par Peggy, ça nécessite de faire 4 fois plus de rayons. Bon. C'est pas,
ça oblige
ça
les
pas
développeurs
dans les
budgets, là, à changer leur campagne marketing, etc.
Avoir un mauvais Peggy sur le jeu, même si l'impact est vraiment très faible à mon avis, je pense pas que ce serait très apprécié.
C'est pour ça qu'ils ont le Peggy 16, ça convient à tout le monde.
Le jeu va moins se vendre parce qu'il est mal, enfin il est noté.
Un Peggy 18, c'est très très sanctionnant, mais
donc y a quand même une dimension commerciale qui est un peu, d'autant plus que si l'organisme de notation fait partie indépendante des programmeurs et des développeurs de jeux.
Ouais. Mais c'est vrai, gros, que ça soulève quand même certaines problématiques. Mais regarde le cinéma, comment ça se passe aujourd'hui. Les distributeurs, les diffuseurs, les réalisateurs, les studios sont sous le joug du même genre, non pas de censure, mais de limitation. Un film, il est classé par âge.
Et
c'est beaucoup plus strict, c'est beaucoup plus appliqué. Et si c'est un film pour plus de 18 ans, tu ne peux pas aller le voir.
Mais tu sais, c'est peut-être.
Tu peux le pirater.
Les gamers devenant parents, ils vont peut-être être plus réceptifs à ça. Ils vont peut-être demander aux développeurs, petit à petit, au fil des buzz.
Années, ouais, ou même des années. Ouais,
de demander à être un petit peu plus strict là-dessus. Il faut peut-être ça aussi.
Je pense que ça doit venir des gamers, en fait, parce que les gamers deviennent eux-mêmes parents. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Sébastopol, ils amènent aussi une culture que nos propres parents n'avaient pas forcément.
Ils connaissent le milieu, alors que les parents sont un peu perdus dans les jeux vidéo.
De la même façon pour les législateurs. Et vas-y.
Non, ce que je voulais dire, c'est que on voit maintenant des signalétiques partout.
Il prend la parole avec un bras d'honneur.
On a un contrôle, en fait, du jeu, du film, de la série, la télé. C'est qu'en ce moment, on voit une recrudescence des petites publicités sur le contenu violent de certains films, de certains jeux, pour sensibiliser peut-être les parents. C'est aussi aux parents de juger aussi de la maturité de leur enfant. Un enfant qui a 16 ans, qui est assez mature pour se rendre compte que c'est qu'un jeu et qu'il ne va pas se laisser, pas embrigader, mais influencé par le jeu. On peut lui confier un GTA, je pense.
C'est équilibré, quoi.
Voilà, si on sent que l'enfant est un peu fragile, il ne faut surtout pas lui donner ce genre de jeu. Après, c'est vraiment la précision des parents de contrôler aussi.
Alors, je serais même un peu plus strict que ça, dans le sens où le but du jeu, c'est pas de. Enfin, on n'est pas à essayer de contrôler ce que tel ou tel enfant va se mettre. Dans les mains.
Si l'enfant va acheter lui-même le jeu, le parent rentre plus en ligne de compte. Tu vois.
Non, mais c'est surtout parent de jouer avec lui éventuellement et de lui expliquer.
C'est le choix du. Je te parle du choix du parent en fait. Je suis pas en train de te dire mettre tel ou tel jeu, ça fait telle ou telle conséquence. Là, on n'est pas du tout dans ce genre de discours là. Il y a plein de mômes qui jouent à des jeux qui sont pas de leur âge et les conséquences sont pas forcément dramatiques. Ce qu'on veut simplement, c'est normalement les contrôler. Si t'as un enfant. T'as envie juste de savoir
ce qu'il juste un embrigadement de la jeunesse, c'est tout.
Jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Mais au-delà de ça, je pense que ça peut être surtout très très bon pour le média en lui-même. On entend beaucoup trop de gens parler des jeux vidéo, notamment des jeux vidéo violents ou avec des contenus un peu polémiques qui ouvrent leur bouche pour dire des choses et parler et critiquer alors qu'ils ne connaissent même pas ce que c'est. Je pense que sur ce genre de mesures, si on avait par exemple des mesures non pas incitatives, restrictives, mais reconnues, ça permettrait de responsabiliser beaucoup plus tout le monde, nous les gamers, les distributeurs, les parents, et finalement d'être un petit peu de prendre le jeu un peu plus au sérieux.
C'est juste la maturité en fait du média en fait. Ouais, là on est en train de parler de ça. Donc peut-être dans quelques années ça sera beaucoup plus limpide et il y aura une signalétique. C'était juste pour faire ça, pour dire pour la fin du débat que c'est avec les années qui vont défiler, les gamers qui seront présidents peut-être du Peggy, qui sauront peut-être bien fixer
du Peggy
de la signalétique.
GP, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je voulais je voulais terminer juste donc sur cette notion de gamer qui devient parent et qui va être peut-être un petit peu plus responsable sur ce sujet. C'est pas pour autant que nos parents n'étaient pas responsables, je pense, pour notre éducation. Ils étaient peut-être un petit peu perdus sur ce sujet, et puis ils pensaient peut-être pas qu'il y avait autant de jeux violents et gens. Est-ce que vous avez des anecdotes, des références, vous, parce que là on est en train de parler de nos chères têtes blondes qui doivent être bien éduquées, mais nous-mêmes, on en a vu des vertes et des pas mûres. Quelles ont été vos premières références à des jeux violents alors que vous étiez encore dans le berceau? Quelles ont été vos premières réactions?
Moi, je pense que c'est ça a été Gaël. Duke Nukem.
Duke Nukem 96.
Duke Nukem où
t'avais 12 ans.
Ouais, à peu près, ouais.
6 ans.
Non, quand même pas. Mais où
tu passais ton permis.
Donc c'était de la tuerie simple de monstres, donc qui est pas représentatif parce que tuer des gens et tuer des monstres,
c'est tuer des cochons,
psychologiquement, c'est pas la même chose. Mmh. Mais surtout, c'est que tu pouvais aller voir des prostituées et leur donner de l'argent pour qu'elles te montrent leur sein. Et ça, je me souviens.
Après, t'as fait ça avec ta mère. T'as pas.
Dis pas les mamans. Et en fait, c'était un spam. Je crois que c'était espace. C'était spam pour leur donner de l'argent. Et bon, après, tu les tuais. Mais c'était.
Oui, autant finir le boulot, quoi, je veux dire. C'est vrai professionnel.
On a quand même un. Et ce jeu, il était avant les Peggy. Et je sais pas s'il y avait une signalétique à l'époque, s'il était déconseillé. Mais il était facilement. Enfin, il tombe facilement entre tes mains. Et même le premier GTA.
C'était un peu rock'n.
Le tout premier GTA vu de dessus.
Le premier GTA.
Écrasé dans tous les sens. Un c'était une boucherie. Et bon, après, ça m'a jamais traumatisé. Mais je conduis quand même super bien maintenant.
Gaël, tu as des séquelles quand même maintenant.
Je conduis super bien.
Une autre anecdote, une autre référence. Patoun.
Pour moi, mon premier jeu violent, c'était Target Renegade. Un petit beat'em all sur Amstrad CPC où on pouvait fracasser les putes.
Voilà. Alors, il y avait des pixels rouges qui allaient sur les pixels rouges.
Gros problème avec les prostituées quand même, ces jeux. Red.
Moi, je crois que c'était le premier jeu que. En tout cas, que j'ai noté comme étant violent, parce qu'il y en avait peut-être eu avant, mais il me semble que c'était Carmageddon.
Ah,
vraiment,
ah oui, Carmageddon.
C'était vraiment étonnant.
C'est avec Carmageddon et GTA. GTA avant qu'ils prennent ses lettres de noblesse avec le 3, où soudainement on a dit ah ouais, c'est très
bien, etc.
Mais ça avait fait des gros buzz.
C'est un jeu où en fait tu étais en voiture et
Madness,
tu devais faire des combos en écrasant
des
les
zombies,
gens.
Non
des civils. Non, des civils.
C'était des civils.
Ouais, des et civils, en Allemagne, il y avait des grand-mères et des landaus, je me souviens.
Bah ça on voit, c'est un peu. C'est GTA quoi en fait.
Mais c'était un jeu de course.
C'était très
Oui, mais ça ressemblait un petit peu, c'était dans le même.
C'était surtout en monde ouvert, si je me souviens bien, on pouvait aller partout. Moi je me rappelle.
C'était en quelle année ça? Tu t'en rappelles un petit peu là?
96, 96.
Ouais, c'est ça, 96,
96. Carmageddon TDR, après le dernier, je crois. Et là, je crois qu'il y a un reboot à HD sur Kickstarter, mais je sais pas où est-ce que ça en est.
Ouais.
Moi, mon anecdote.
Carmageddon
je crois
Revolution,
que...
je crois que ça s'appelle, un truc comme ça.
Je crois que Gaël, je t'avais invité pour y jouer. C'était
LBA.
Doom.
LBA.
Doom 2, et je l'avais montré à ma sœur, et avec les musiques, on était complètement enivrés de ça. Enfin, il n'y a même pas. C'est des sons gutturaux qui sortent de la machine, puis tu vois des sortes d'aliens bizarres qui t'envoient des boules de feu. Et ma sœur, elle avait 5 ans de moins, donc franchement, elle devait avoir. Devait avoir 8 ans, quoi. Et déjà, nous, ça nous faisait flipper. On enlevait la tête de l'écran pour pas se prendre les boules de feu. Et moi, j'en faisais quelques rêves bizarres. Et ma sœur, mais elle devait être traumatisée. Et ma mère qui me dit, Eric, tu montres plus jamais ce jeu vidéo à ta sœur. Ouais, Seb.
Alors, moi, j'étais en train de réfléchir. Et c'était peut-être le premier Resident Evil ou le Silent Hill. J'ai fait le premier, 96-97 à ce moment-là, et ça m'avait beaucoup marqué. Alors, du côté de Silent Hill, c'était plutôt psychologique. Mmh. Côté Resident Evil, c'était vraiment gore avec les chiens, tout le monde se rappelle, du petit cliché de la fenêtre qui se casse, tout ça.
Le couloir des chiens, 10 ans de traumatisé.
Mais il y a une génération de gamers qui a été traumatisé.
Personne se souvient du jeu à part un couloir et des chiens.
Mais moi, c'est plus psychologique, mais c'était vraiment le Silent Hill. Avec la brume, marcher dans une ville où il n'y a vraiment personne. Ça commence à faire réfléchir, surtout quand t'es... Alors maintenant, je rigole, mais c'est vrai que sur le moment, on rigolait pas du tout avec les amis.
Donc du coup, on est tous d'accord pour dire que le Peggy doit rester.
Moi, je suis pour aussi.
Alors,
je suis pour.
Est-ce qu'on doit l'accentuer? Est-ce qu'on doit le être plus sévère dessus? Est-ce qu'on doit faire une interdiction moins de 18 ou rester dans une simple signalétique?
Alors Sébastopol, moi, je suis pour l'obligation. On passe au stade supérieur et on oblige.
J'ai payé.
Même si c'est un petit peu dur pour certains, mais moi je suis ça.
Oh, moi je sais pas trop. Je me demande, je sais pas trop. Enfin, si je sais,
d'accord,
il faut
merci,
le laisser
merci.
À titre informatif, bien sûr, mais être plus strict ou pas, là j'ai pas trop. Je suis pas parent, donc je sais pas comment ça se passe dans les boutiques.
Gros,
etc.
Moi je suis pour une interdiction, mais avec refonte du système de notation.
D'accord. Red.
Moi je suis du même avis que Gros, à savoir que comme apparemment c'est un système européen, ça doit être beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
Et Patoun?
Alors, pour l'obligation, je ne suis pas convaincu. ça a étudié. Par contre, ce qu'il faut vraiment faire actuellement, c'est informer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, de parents qui ne connaissent pas du tout le PEGI, qui ne ouais. savent pas ce que c'est.
Et est-ce qu'il ne faudrait pas dissocier violence et sexe? Parce que nous, là, on a tous été marqués par des jeux un peu violents dans les années 90. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus des jeux réalistes avec des scènes de sexe, etc.
C'est même pour ça, ça qu'ils ont rajouté la double signalétique avec les petits symboles quand il y a de la drogue.
Tu peux dissocier.
Donc on reste sur un 18 parce que ça soit sexe violent,
on sait que les enfants. Mais
tu dois avoir normalement, tu as des petits pictogrammes qui indiquent s'il y a de la violence, s'il y a des jeux d'argent ou autre.
Red, tu voulais dire quelque chose ?
Non, ça me fait marrer, on en a déjà parlé. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que les pictogrammes sont à usage des parents. Ils sont là pour leur dire attention, voilà ce que vous
ils
allez.
Ils sont bien affichés.
Voilà
là.
Ce que vous risquez
on
de trouver dans le jeu.
On a la boîte de Bayonetta 2.
Et non pas le contraire. C'est pas des arguments de vente pour les gamers.
Mais oui, c'est vrai que c'est.
Bah, je pense pas que ce soit un argument de vente. Moi, franchement, j'ai jamais acheté un jeu en me disant je connais pas, je sais pas si c'est.
Ça a l'air ultra violent, j'achète.
T'as pas 12 ans.
C'est ça. Si, mais j'ai eu 12 ans et.
Oui, mais t'existais pas les pays à l'époque.
Alors t'as pas de, t'as pas de souvenirs.
T'es okay. Né adulte.
Bon, merci
mais
pour
sur
ce
les
petits.
Mais c'est vrai que sur les CD qu'on passait au lycée, il n'y avait pas les pictogrammes.
C'est normal, c'était gravé.
Ah
les disquettes. Les disquettes, il n'y avait pas de Peggy à l'époque.
Bon, bien.
Ok, donc merci pour ce petit débat très informatif et constructif. On passe tout de suite aux chroniques. Donc pour cette première chronique, Sébastopol, le micro donc est tout à toi pour nous parler. Alors, on est peut-être prévu d'en parler de deux jeux, mais finalement que d'un seul.
Non, je peux faire le résumé. Alors, c'est pour Bayonetta 1 et 2 qui vient de sortir au mois de novembre 2014 sur Wii U. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont dû faire Bayonetta sur la 360 et sur la PS3. Donc avec une petite supériorité graphique et le jeu qui frisait pas sur 360, la PS3 a été le moins bon.
Comme
et donc
souvent.
Non. Et, non pas pour moi, mais pas pour celui-là en tout cas beaucoup plus. Et ils ont ressorti au mois de novembre la version grâce à Nintendo. Alors hop, c'est le fanboy qui parle hein, aussi. Donc on a eu le deuxième. Et qui est extrêmement bien. Alors, pour rappel, j'ai envie de faire Bayonetta 2. J'ai fait les deux jeux. Pour faire juste un petit résumé du 1, alors ça a été fait déjà par Platinum Games. Alors, tout le monde les connaît. Ils ont fait Okami, Beautiful Joe, Devil May Cry. C'est Hideki Kamiya, c'est l'ancien de Clovers, en fait, qui a fait ça. Et c'est fantastique. Alors, moi, je suis un très gros consommateur.
C'est lui qui avait fait Devil May Cry, je crois.
Oui, le premier. Juste le premier, en fait. Juste le premier. Pas les suivants, mais juste le premier. Et donc, comme je n'avais pas fait celui de 360 et de PS3, je me suis dit, le pack complet, et on y va, c'est parti. Alors, en résumé, Bayonetta, c'est une sorcière amnésique sortie d'un sommeil de 500 ans qui cherche désormais ses souvenirs. Donc ça, c'était le premier. Oui, vas-y.
Non, mais je n'aurais pas fait ce résumé-là. Moi, Bayonetta, pour moi, c'est un jeu génial auquel trop peu de gens jouent.
Mais oui, déjà, mais c'est totalement vrai. Il y a très peu de gens. Ça n'a pas dû être dans un top parce qu'évidemment, le 2 n'était pas prévu. C'était pas prévu et Nintendo s'est dit j'ai pas de jeu vraiment hardcore gamer mais sur ma machine.
Le 1 je crois qu'il s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires.
Ah le 1, 2,5 sur cumulé 360 oui. PS3, c'était déjà pas mal. Mais et pourtant ces gars qui n'avaient plus d'argent pouvaient pas continuer à faire le numéro
peut-être
2.
Peut-être qu'il y en a pas mal qui se sont vendus pas cher à 15€, ce genre de choses.
Peut-être parce que je sais qu'on en voit encore maintenant à 10-15€, on peut en trouver. Ouais. Mais la version Wii U évidemment est supérieure, tout a été lissé, c'est en HD, donc on passe vraiment un vrai beat'em all pour hardcore, hein, vraiment.
Ah, c'est très très hardcore.
Ouais, non, le 2 je crois pour l'instant est encore en deçà de 1 million. Mais
sur une seule console.
Exactement, 600 000 ventes. On ne juge pas un titre au nombre d'exemplaires qu'il a vendu.
C'est la qualité du jeu.
On ne juge que des gamers.
C'est pas énormément.
Là, c'est la qualité en fait qui parle. Et c'est vraiment un beat'em all. Vraiment,
tu l'as fini ?
J'ai fini les deux en fait. J'ai fait le 1 et le 2. Et j'ai, alors, le 1 est difficile quand même. Vraiment.
Je dis mytho moi.
Le 1 est
trop
dur. Le 1 il est trop dur.
Non, fini le 1 et fini le 2.
En quelle difficulté ? En facile ?
Non, normal. Normal et normal.
Je démarre directement en difficile.
Moi j'avais
Non, j'ai pas fait en
t'as
difficile.
T'as accès au mode difficile, je crois, dès le début.
J'en sais rien. Dans le premier ou dans le 2?
Dans le premier. Moi, je sais que...
Je sais pas. Moi, je mets toujours normal, en fait. J'appuie directement et c'est la version normale.
Je crois que le premier, je l'ai lancé en difficile, moi. Et à un moment, pas c'est pas possible. À un moment, je suis pas assez rapide sur les touches.
Alors, la version, faut toujours penser que les Japonais le font vraiment. Leur norme, c'est difficile. Hein. Ils le font vraiment pour le scoring et pour faire... Nous... Pauvres occidentaux, nous on le fait en normal et déjà on gère mal. Oui, tu veux me dire quelque chose?
Non, juste tu as fait le 1 à l'époque ou tu as fait le 1 non, quand il était sur le disque du 2 en fait.
Non, j'ai fait sur Wii U. D'accord. Celui qui vient de
t'as
sortir.
Acheté le pack.
J'ai acheté le pack et il inclut dedans.
Donc, le
pour,
1 sans les ralentissements de la PS3.
Eh oui. Merci la Wii U. Merci la Wii U. Alors tout ça pour dire le spectacle est super. Alors on va passer juste pour parler du 2. Merci Nintendo pour nous avoir fait refaire venir Bayonetta. Qui est vraiment déjà elle a un charme fou cette Bayonetta, elle a un style de combat, des positions, et évidemment il y a Patoon qui me fait bon il y a elle a une des arguments un potentiel physique hors norme et donc voilà, donc c'est un conflit en fait dans le 2 Bayonetta, c'est un conflit entre les sages de Lumen, en fait c'est la version claire, c'est la lumière contre la dernière survivante des sorcières de l'Umbra. Donc c'est un combat, c'est très manichéen, hein. on va pas tourner autour du pot. C'est le bien contre le mal, l'ombre et la lumière, et elle est entre les deux. Et c'est
l'arbitre,
Patoon qui a envie de me dire quelque chose.
Ouais, juste pour revenir sur les arguments de Bayonetta.
Oui.
Moi, ce qui m'a choqué quand j'ai joué.
Oh là
jeu,
là. Oui.
C'est que quand elle sort certaines techniques, elle se retrouve à poil.
Oui, c'est ses cheveux.
En comme
fait.
Le comme
Attends,
le premier.
C'est
en
comme
fait.
Le premier. Ses cheveux.
Certaines techniques.
Oui, quand elle fait les combos, la finalité.
Moi, je vois Bayonetta 3 à 3 avec les cheveux courts.
Oui, le 2, elle a les cheveux courts. Dans le premier, elle a les cheveux longs.
Ah oui.
Et quand elle fait un combo, ses cheveux, en fait, c'est son costume, en fait, qui est fabriqué, en fait, par ses cheveux. Et donc, ses cheveux partent. Eh oui. Et un démon des sorcières, du monde des sorcières de l'enfer, sort des ténèbres pour l'aider, en fait, pour.
C'est une animation qui dure 45 secondes. Non, faut pas la faire trop souvent.
Non, mais c'est un point important des Beats et Moles. On l'a pas dit sur les nouveaux, c'est les combos. Il faut que ça aille très vite, c'est nerveux, c'est dynamique.
Est-ce
et
que
si
le
on.
Gameplay est bien dans le combat,
alors. Non, oui,
c'est pas
sur
trop
les.
Compliqué à apprendre.
Non, c'est vraiment. C'est comme. C'est
même
comme
le finish move. Finish move, Jacques Dessange.
Oui, ah, voilà, le petit mot, la petite boutade encore, une fois de plus. Donc, tout ça pour dire, il y a plein de choses de bien. Il y a le Wish Time, en fait, ce qu'on appelle l'envoûtement, où il faut appuyer sur une touche sur R2, en fait, c'est sur la gâchette, juste au moment où on se fait frapper.
Il y a un R2 sur Wii.
Oui, il y a R1 et R2.
Tu joues avec la mablette ?
La mablette, oui, il y a deux touches sur deux gâchettes.
Wii U.
Oui, sur la Wii U, sur Wii U. Le gamepad. Oh d'accord, bon ok, ça marche, on continue, merci GP. Et donc c'est que du fun, on a envie de passer un bon moment, comme j'ai parlé la dernière fois avec The Wolf Among Us, on a envie de passer un bon moment, ça aussi, on se défoule, on a passé une journée de merde, on a envie de passer un bon moment, on tapote sur la pas besoin, très accessible, pas besoin d'avoir fait l'ENA, où c'est un scénario très simple et une histoire pas captivante, on va pas aller jusqu'à là, mais on a envie de savoir la suite et un gameplay de fou.
Si on a des origines coréennes, quand même, ça aide un peu pour le gameplay.
Oui, coréenne ou japonaise, c'est bon, on le finit tout de suite.
Et donc, Seb, juste, oui. Quand t'as joué au 2, est-ce que tu peux revenir au 1 ou est-ce qu'il y a vraiment un gap de détails, de profusion, de décors variés?
Alors, la question toute bête, c'est est-ce qu'on a la version 360 et PS3? Non, on revient pas dessus. La version Wii U, c'est comme ça a été lissé, c'est en pur HD, mais vraiment ils ont fait. Il y a quand même une petite différence entre la version 360.
C'était déjà en HD. Hein.
Oui, oui, mais c'était un peu moins bien.
Ah oui,
j'ai revu. Ouais, j'ai revu. Il y a eu un petit. C'est mieux. Voilà, tout simplement. Si on a le choix maintenant d'acheter le jeu, on prend Bayonetta 1 et 2 en pack. Et puis on passe à un excellent moment.
La durée de vie, c'est combien à peu près sur le 2
Alors le premier et le 2 sont à peu près pareils, entre 15 et 20 heures.
Ça dépend de ton niveau. En fait.
Voilà, c'est ça. Si tu rames, tu vas passer 20 heures. Moi, j'ai passé 20 heures sur le premier et 15 heures sur le second.
Est-ce
parce qu'il est plus facile. Le 2 est plus facile que le 1. Achetez-vous une Wii U. Hein, je fais passer le petit message. Et puis, allez-y, c'est hardcore.
Ils sont sortis uniquement sur Wii U, le 2.
Oui, oui, le 2 est que sur.
Il a été financé en partie par Nintendo.
Parce que le premier, moi, j'y ai joué sur la Xbox 360.
Oui, 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 exact. C'est parce que c'est
Sega. Je garde un très bon souvenir, mais extrêmement dur.
Oui. Mais non,
j'ai pas pu le finir. Bah, je pense que j'ai commencé en difficile et à un moment, je reste bloqué parce que Soit les combos tu t'en souviens plus, il y a trop de monde, enfin, non, faut vraiment enchaîner sans se faire toucher parce que si
oui,
tu prends
mais
un
a...
coup et ça te, ça te
mais il y a la boutique aussi de Rodin, il y a la boutique de Rodin qui permet en fait grâce au halo, en fait c'est la monnaie du jeu, d'augmenter en fait ses capacités en fait, c'est
dans le 2 ça
même dans le 1 on, dans le 1 si si il y a une boutique,
ouais,
c'est un
comprend.
Ami en fait de Bayonetta, Cereza en fait de son vrai nom, et on peut aller dans les portes de l'enfer.
Oh, si
et
tu la connais personnellement. Alors
moi
là,
je la connais, c'est une copine
hein.
C'est une copine, et donc on peut augmenter ses capacités magiques, donc on peut par exemple dans le 2 on peut devenir la panthère qui est automatique, un corbeau, et même
tu peux transformer en animal,
et oui ouais. Et on peut même aller, alors le paramétrage le sublime, alors faut mettre beaucoup d'argent mais des halos, c'est de se transformer en chauve-souris, ce qui fait qu'au moment où on appuie sur la gâchette, l'envoûtement, pile au moment où on se fait frapper, on disparaît, on passe derrière le. On, directement, il y a l'envoûtement qui démarre, le wish time, et on tape et on perd pas de vie. Et on démarre le combo automatiquement. Donc, ça, c'est un paramétrage qui est excellent. Voilà. Red, une petite question.
Ouais, j'avais une petite question pour toi. En fait, c'est Platinum, c'est Vanquish, c'est.
Ah oui, c'est Vanquish.
Joe, comme tu disais.
Oh là là,
il y a quand même un gros héritage.
Wonderful 101 sur la Wii.
Capcom. Mais ouais. si tu devais rapprocher le jeu d'un autre titre, ça te ferait penser à quoi? C'est un gros défouloir? C'est quoi?
Si j'avais une comparaison, bah c'est un beat'em all nerveux, donc Vanquish peut-être, à la limite Vanquish, qui n'est pas du tout dans le même monde.
Tellement
parce
bien,
que c'est futuriste. Et donc
il y a un côté
voilà.
Explosion de partout et puis en même temps un gameplay assez précis quoi.
C'est que du bonheur. Là, c'est ce qu'on dit, ce qu'on avait dit aussi dans le premier podcast, c'est qu'on sait pourquoi on a perdu. C'est pas, il y a pas une latence dans le temps. C'est on a perdu, on sait pourquoi et c'est nerveux et on prend du plaisir. C'est vraiment du fun. On n'est pas là pour le scénario, on est là pour du fun et on passe un excellent moment. Donc
très
allez-y.
Nerveux. C'est très nerveux quand même.
Très nerveux. Hein. Vanquish, c'est à peu près la comparaison que je pourrais donner par rapport à Platinum Games, qui est un super studio.
D'accord, bah merci Seb.
Merci beaucoup,
coup,
merci
le,
à vous.
C'est quoi, tu l'as acheté le pack avec la console, t'as acheté le
pas du tout, j'avais déjà pris. Bah j'ai pris, alors moi étant un fanboy de Nintendo, comme ça tout le monde va savoir dans le monde entier, c'est que j'ai pris en Day One la Wii U. On était très peu, hein, je préviens tout de suite, on était très peu. Et
juste pour le tarif en fait, du coup des deux, il coûte combien?
Ah là maintenant, il a peut-être baissé de prix. Oh non, les jeux Wii U, Nintendo sont toujours non une cinquantaine, je pense.
Pour les deux.
Oui, parce que je pense que je l'ai eu un peu plus cher parce que je l'ai pris. Moi, je prends alors les jeux Wii U, c'est plutôt du Day One. Je dois l'avoir à 55, j'ai dû l'avoir. Mais il faut vraiment le prendre. Le prix vaut le coup.
D'accord. Ok. Bah, merci Seb. Bah,
merci à vous.
On enchaîne du coup avec la deuxième chronique qui est Patoun qui va nous parler de Watch Dogs.
Oui, tout à fait.
Oui, tu sens le présentateur météo qui.
Oui, oui, attendez que tu lances la musique.
Il fait beau, si tu veux. Il fait beau sur Paris.
On peut lancer la musique, c'est parti.
I saw something no one was meant to see. They took someone very precious to me. Now, I'm coming for them.
Alors, Watch Dogs, donc, il est sorti dans le 27 mai dernier, présenté, édité et développé par Ubisoft. Bon, je ne vais pas vous refaire la présentation.
Cocorico.
Voilà, tout le monde connaît Aiden Pierce, son histoire. Dans le jeu, il veut venger sa nièce des méchants qui l'ont tué. Le jeu...
C'est du scénar.
Ça, c'est du scénar, ouais.
Enfin, elle se fait tuer par sa faute, hein, quasiment.
Oui, oui, complètement, oui. C'est vendu comme un revenge game, voilà un peu pour faire le parallèle avec ces genres de films qu'on voit, comme Payback avec Mel Gibson, c'est pour certains qui l'ont vu, c'est le même principe, ouais. C'est le héros, il est pas content et il tue tout le monde. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais préciser un truc, c'est que j'ai quand même kiffé le jeu. Voilà, ça reste un excellent jeu, le gameplay est carré. Il est plutôt joli, même s'il n'est pas aussi beau qu'on l'aurait aimé. Seulement...
Il a joué sur Xbox
Xbox One.
Ouais. Voilà. Xbox One.
Oui.
Ah oui, d'accord.
Oui, pourquoi? Ça pose un problème?
Non, parce que sur 360, on a un graphiquement qui n'est pas extraordinaire, en fait. Ça rejoint un GTA V et pas plus.
Non, il faut le prendre sur Wii U.
Apparemment, il y a vraiment...
Non, les amis.
Ils sont quand même au bout de la console, là, sur Xbox 360.
Oui, mais du coup, on est un peu déçus visuellement, parce que t'as quand même des morceaux de texture qui sautent.
Qui étaient vraiment...
C'est-à-dire, la présentation de 2012 avait mis la barre tellement haut, tellement...
Et je pense que si tu avais joué sur PC, je crois que maintenant, il y a des patchs qui sont faits, qui sont non officiels, de mecs qui sont allés déverrouiller des textures qui étaient sur la galette. Et tu peux avoir le même jeu qui avait été présenté lors du trailer, mais sur Xbox One, il est beau, mais pas aussi beau que sur PC, du coup.
Vous avez oublié une plateforme, c'est la Wii U. Hein, alors.
C'est l'histoire du jeu vidéo, ouais. Ils ont toujours été plus beaux sur PC.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Donc, ça reste un excellent jeu, seulement il a un problème qui, je trouve, est assez représentatif du jeu vidéo actuellement. C'est-à-dire qu'on sait faire du gameplay, on sait faire de beaux univers, mais on ne sait pas raconter des histoires. Du moins, on ne sait pas en raconter de bonnes.
Surtout, excuse-moi Patoun, pourquoi chez Ubi ils ont l'argent, c'est la deuxième boîte mondiale, pourquoi ils n'ont pas des bons scénaristes pour raconter une belle histoire?
C'est pas la première fois, déjà avec Assassin's Creed Unity, oui, bien sûr. C'est un peu un scandale aussi.
Assassin's Creed, depuis le 3, ils sont partis en cacahuète, ils sont partis dans la mauvaise direction.
Le Black Flag
était n'importe quoi.
C'est pas le sujet.
Unity, moi je le trouve bien.
Restons sur Watch Dogs.
Après, il n'y a pas qu'Ubisoft qui fait n'importe quoi. C'est oui, pas les seuls.
Mais Watch Dogs, c'est leur nouvelle licence.
Watch Dogs, c'est leur toute nouvelle licence.
Qui s'est bien vendue d'ailleurs.
Qui s'est bien vendue. Ils avaient bien prévu le coup parce qu'à la fin du jeu,
8 millions
ils ont déjà ouvert pour une suite.
Ah oui.
Voilà, que j'espère sera meilleure. Bien sûr.
Donc, alors toi, t'as bien aimé le gameplay?
J'ai bien aimé le gameplay.
C'est quoi les mécaniques un peu originales de ce titre? C'est dans la ville, c'est ça?
C'est dans la ville, en fait. La grosse originalité, c'est qu'on peut tout pirater. Clairement, on peut pirater les feux pour créer des accidents. On peut pirater également la pression des canalisations d'eau et de gaz pour faire sauter le bitume pour nos poursuivants. Il y a plein de petites choses.
On peut pirater les compteurs électriques pour payer moins cher ?
Non, on peut les faire sauter aussi.
Compteurs électriques?
Ouais. Ah ouais. Ouais, il y a des petits disjoncteurs.
Ça t'intéresse là.
On
poursuit
quelqu'un à pied, pouf, on le fait sauter, le mec il est sonné, et puis on va l'arrêter.
D'accord. C'est les compteurs dans la rue.
Dans la rue, oui. Oui, dans la rue.
Comme ça, t'as pas besoin de toc-toquer chez les gens pour relever le compteur, quoi.
Non. Non, c'est.
De toc-toquer.
Nous, un deuxième mot nouveau en français.
Eric, ouais.
GP, l'homme au néologisme facile. Voilà. Pour en revenir au gros problème du jeu, son scénario, pour moi, il a plusieurs gros problèmes. Le premier, c'est la nièce du héros. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas, en fait. On l'a clairement.
Et là, t'es pas en train de nous dire la fin du jeu, là.
Non, non, non,
c'est pas spoiler.
Non, non,
j'ai eu peur pendant un moment.
En fait, la nièce, même dans ses flashbacks, on la voit jamais. On la voit jamais. C'est pas un personnage qui a une existence propre. On voit juste son ours en peluche.
Non, mais on va pas spoiler, mais au début du jeu, elle meurt, c'est ça que tu disais?
Oui, elle meurt au début. Voilà,
je sais plus si c'est du spoil.
On a un plan d'elle, je crois, dans la voiture, dans les flashbacks, et c'est tout.
C'est tout, voilà. Ah oui. Tout ce qu'on voit d'elle, en fait, dans 90% du jeu, c'est la peluche.
Et tu trouves que ça manque de pas avoir un contrebalancement du héros, quoi.
Voilà,
un autre
c'est
personnage
le
important.
C'est pas ça, c'est que la raison déjà de tout ça, pour laquelle on massacre des dizaines et des dizaines de mecs, c'est pour un ours en peluche. C'est un peu... moi, je trouve ça un peu bizarre.
Pourquoi tu dois récupérer l'ours en peluche?
C'est dans la vidéo de l'accident.
La voiture fait part en tonneau, et en fait, l'ours en peluche que la petite nièce tenait dans la main, on a un plan où l'ours tombe sur la route, en fait.
Voilà.
Pour symboliser la petite fille qui est morte.
Voilà, elle est symbolisée.
Pas la montrer, quoi.
Tu vois, elle est symbolisée par cette ours en peluche.
Oui, oui, d'accord.
Elle n'a pas d'existence propre.
D'accord.
Ouais. Et en fait, globalement, les personnages du jeu sont assez creux. Globalement, même le héros.
Oui, c'est pas tant que l'histoire soit limitée, parce que ça peut arriver à des très bons films ou des très bons jeux, si après, quand même, la narration et les personnages secondaires ou ce genre de choses, tu peux créer plein de choses sur une simple histoire d'amour. Mais apparemment, même au sein du jeu, les personnages secondaires, les petites histoires, etc., ça, c'est pas terrible.
Non, c'est vraiment pas ça. Les personnages sont vraiment vides. Pour donner un ordre d'idée de la connerie de certains personnages, alors il a Aiden, donc il a une sœur qu'on voit au début du jeu. Voilà, tranquille, ils font leur discute et tout. Et pendant tout le jeu, en fait, les médias, les radios et tout ça, ils disent oui, il y a le justicier Aiden Pierce qui a fait ci, qui a fait ça. Nanana, il est recherché par la police. Et arrivé aux trois quarts du jeu, genre au bout de 20-30 heures de jeu, on se retrouve en voiture avec, avec la sœur du héros et elle dit comme ça, ah bon, c'est toi le justicier. Je dis mais...
Tout le monde était au courant sauf
voilà,
elle en fait.
Tout fait tout
achète le journal, merde, putain.
Je sais pas, regarde la télé, achète-toi une vie quoi, bordel. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que...
Qui sont pas réalistes en fait. Qui sont pas
c'est
réalistes.
Pas ça, c'est que c'est des petites bêtises qui sont faites à droite à gauche, qui s'accumulent et qui font qu'au bout d'un moment...
C'est peut-être des erreurs de jeunesse. Assassin's Creed 1 aussi, il y avait un gameplay un petit peu limité. Il passe tellement de temps à construire la ville, à remplir le monde de choses à faire, etc., qu'il y a des petits déséquilibres, et notamment dans la narration. Quoi.
Bah, t'as autre chose à nous dire, Patoun, sur le jeu ou,
En fait, y a un autre gros problème sur le jeu aussi, c'est qu'il passe à côté d'un sujet très intéressant que me faisait une joie de voir, c'est la problématique du tout connecté. Clairement.
Ou du tout surveillé
En fait, les deux sont liés. Ouais. À partir du moment où tout est connecté, tout est monitoré, tout est surveillé. Voilà. Et il ne fait qu'effleurer le sujet. C'est-à-dire, il nous montre des caméras, des flux vidéo qui sont piqués directement chez les habitants, mais il s'arrête là. Il ne va pas plus loin.
Il n'y a pas trop de mission polémique ou...
Il n'y a pas de polémique, il n'y a aucune réflexion sur le sujet.
On va mettre un petit bémol, c'était leur premier volet, c'est le premier de la licence. On va voir le deuxième, il vaut mieux attendre le deuxième.
Il y a des jeux qui, au premier volet, ont réussi à faire de très belles histoires.
Bien sûr.
Je pense à The Last of Us, qui est clairement...
C'est du Naughty Dog, ça.
Une histoire très simple, hein. Mais qui est super bien raconté avec des personnages super bien écrits. Et là, Watch Dogs, ils ont fait n'importe
donc
quoi.
Donc, même si le scénario est pas bon, pourrait être meilleur. Est-ce que maniabilité, gameplay, donc c'est bon
le
ou ça
gameplay, le
c'est
gameplay,
ça.
En
c'est
fait...
plutôt ça en fait. Est-ce qu'on passe un bon moment c'est le,
ouais.
La question
est-ce que
tout bête en fait.
La conduite est mieux que GTA.
Bah oui, ce que c'est.
Non, le gameplay est bon. En fait, c'est Ubisoft, ils savent faire du gameplay. Je veux dire, c'est même plus la question.
Donc, il leur manque des scénaristes. Voilà, on va pas tout revenir.
Voilà.
Nous raconter une histoire pendant une dizaine d'heures,
et
une quinzaine d'heures.
Je tiens à quand même souligner qu'ils sont capables de nous raconter des bonnes histoires parce que Driver San Francisco, ils avaient fait.
Ah, je sais que t'adores ça, Patoun. Je sais que t'adores ça.
Ils ont fait un truc de ouf
il
sur Driver.
Super.
Et ils savent faire ça. Qu'ils le refassent.
Ouais, vas-y, Red.
Non, je voulais juste ajouter. Je sais pas, de toute façon, le jeu coûte pas très cher, je pense. Maintenant, il est pas encore réduit. Ah, 40 quand même, encore. Ouais. C'est encore un petit peu cher.
Il faut ça a l'air de bourgeois, mais 40 quand même.
Il faut encore attendre quelques mois. Mais non, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je crois que j'étais vraiment dans le cœur de cible, hyper intéressé, hyper excité au début, et hyper déçu à l'arrivée. Par contre, il y a quelque chose que j'ai gardé vraiment en mémoire, c'est, je pense, pendant la promotion du titre, le studio a lâché pas une companion app, mais une application à faire sur le web pour présenter
un plan
peu,
de la ville,
exactement, pour
quoi.
Présenter un petit peu ce que c'était que l'open data. Et si je me souviens bien, c'était il y avait des plans de différentes villes. Moi, j'avais regardé celui de Paris, et en fait, il te montrait en temps réel à toutes les données auxquelles on peut accéder publiquement.
Mais c'était intégré dans le jeu ou c'était complètement
dissocié?
Non,
c'est sur le web.
Avec les plans des
ouais,
vraies
ouais.
villes, etc.
Il y avait, je crois, une companion app avec le plan,
pour
la map
le buzz
du jeu,
un peu.
Mais il y avait à côté de ça, juste, ils avaient récupéré les data publiques pour te montrer, voilà, ce que c'est aujourd'hui les data auxquelles tu peux accéder. C'est très très impressionnant de voir tous les trains, les bus, les taxis, les distributeurs de billets et de te dire que
potentiellement, si tu avais le contrôle complet sur l'informatique de Paris, voilà tout ce sur quoi tu pourrais toucher. Quoi.
Voilà, c'est pas une science-fiction qui nous emmène très très loin dans l'anticipation.
Gaël, ouais, tu voulais parler.
Moi, j'aimerais soulever un problème que Patoun n'a pas soulevé parce que je pense qu'il l'a pas vécu du fait de la Xbox One. C'est le bridage des versions 360 et PlayStation. C'est-à-dire que le mode multi nous faisait saliver à la base. Il y avait un mode, si je me souviens bien, 4 contre 4 de piratage où tu devais récupérer une mallette ou un élément, je crois bien. Et en tout cas, dans le mode multi 360, ils ont enlevé des modes de jeu qu'ils ont laissé uniquement sur les versions One et PS4 pour sans doute vendre les One et PS4.
Ah, t'as raison, il y avait
c'est une histoire de stockage là, c'est qu'ils avaient peut-être pas
les
la
galettes.
Possibilité.
Je suis pas sûr
parce que non,
je pose la question en fait.
Pour moi, c'est vraiment de la vente
sur Xbox 360, c'est sur un DVD de 8 Go.
Oui, mais là, vous avez raison, c'est comme Forza Horizon 2, la version 360 est nulle. Et la version One est splendide.
Donc, c'est ça. Donc c'est pour forcer à acheter les nouvelles consoles. Et ça, je trouve ça un peu injuste. Ça va entraîner juste une mort plus rapide de la 360 et de la des PlayStation 3.
Mais c'est peut-être
3.
Ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent le passage directement à la prochaine génération de consoles.
Ouais, mais il faut quand même satisfaire les jeux.
Bien sûr. Moi, je suis le premier à le dire.
À l'ancienne époque, tu pouvais quand même trouver des jeux quand tu passais de la PlayStation 1 à la 2. Les jeux sortaient encore sur PlayStation 1. Ou,
là, ça fait ouais, une bonne
année.
Et c'est
un peu. J'avais eu le même problème sur. C'était Plants vs Zombies Garden Warfare où il y avait un mode. De coop, c'était génial ce jeu. Et il y avait un mode qui n'existait pas sur la Xbox 360 qu'ils avaient mis uniquement sur la One.
Moi par exemple, moi je l'ai en tête, mais maintenant moi ça me pose plus de problème parce que moi je l'ai en tête. Quand il y a une nouvelle console, une nouvelle génération qui passe, je sais que les deux supports ne seront pas pareils. Voilà.
C'est difficilement attaquable en même temps. Quand le jeu est sorti, la nouvelle génération était encore plus fraîche qu'aujourd'hui.
Oh oui, ils voulaient vendre.
Ils voulaient vendre ne serait-ce qu'un petit peu.
C'est logique.
Aujourd'hui, on leur ferait presque le discours inverse. Est-ce qu'un jeu qui est prévu aujourd'hui, est-ce qu'il doit exister dans une version downgradée sous prétexte de pouvoir être vendu sur la 360 ou la PS3? Moi je crois que c'est pas forcément nécessaire. Si ça impacte le gameplay, il faut un petit peu penser à l'avenir. Alors ouais. Je dis ça, c'est pratique puisque j'ai eu la chance de sauter le pas il y a pas très longtemps. Donc voilà.
T'as acheté une console?
Ouais.
T'as acheté quoi?
J'ai acheté une PS4.
Ah oui, d'accord.
Très bien. Un connaisseur.
Mais j'étais très Xbox hein, quand même.
Ouais, mais moi je suis plutôt du genre vraiment, c'est passage directement à la nouvelle génération.
Day one quoi. Seb, c'est le
non,
day one.
Non, c'est même plutôt le contraire parce que ma PS4, je l'ai eu il y a un mois et demi, donc c'est vraiment très récent aussi. Mais pour dire les nouvelles, ça coûte très cher de faire des jeux, donc le passage directement à la nouvelle génération met toutes les forces sur le même support. Est plus favorable en fait pour les développeurs, pour les studios, que de couper l'effectif en deux et peut faire voilà.
On n'est plus sur Amstrad, hein, c'est fini. Hein.
Voilà, c'est plus compliqué en fait.
Pour conclure, donc ça reste quand même un très bon jeu avec un gameplay un peu différent, même si on se rapproche un peu du GTA hein, dans la façon de jouer. C'est juste des petits modes rajoutés. On le conseille à ceux qui l'ont pas essayé parce qu'il faut quand même, c'est un bon trip. On peut bien s'amuser. Le mode multi à pirater les autres sur Internet est vraiment sympa. Donc
on attendra Watch Dogs 2.
Voilà.
Non, mais même le 1, moi je pense que je l'achèterai un petit peu moins cher. J'attends encore quelques mois, mais c'est un titre que j'ai envie de faire.
D'accord.
Voilà, ça c'est mon petit point.
D'ailleurs, c'est un podcast statut. On parle d'un jeu d'il y a 6 mois, mais c'est quand même. Enfin, finalement, il est toujours pas présenté le 2. Quoi. Voilà, on verra. Quoi.
C'est qu'une question de temps, ça va pas tarder, je pense.
Gaël, on prend la parole.
Merci Patoun, en tout cas, pour ce bon jeu. On va passer à la rubrique que vous attendez tous. Le quiz, le jingle, enfin, oh là là, je me perds, ça y est, je suis fatigué. La rubrique What the Duck, jingle. Oui, non, faut pas noter le jingle.
C'est ça le quiz jingle?
Oui, ben, non,
c'est sûr.
La rubrique What the Duck, on savait pas trop quoi mettre, on a pensé à canard et voilà, c'est super. Alors, donc pour ce quiz d'aujourd'hui. Ça va être un quiz avec un thème un peu particulier, ça va être un quiz un peu memory. C'est un quiz basé sur le premier podcast. Voilà. Savoir si vous vous souvenez.
Parce qu'il l'a réécouté 3 fois, alors le mec il est blindé. Quoi.
Je m'en souviens très bien.
Combien de fois le mec a bégayé.
Donc,
alors l'alcool.
Il n'y a pas d'élimination comme le mois dernier.
S'appelle le mec qui a créé Witcher.
C'est lui qui a le plus de points. Donc nous allons avoir.
Il cherche dans ses notes.
des musiques relatant des jeux vidéo dont on a parlé. Dites votre pseudo et vous annoncerez la réponse. Si vous vous trompez une fois, vous êtes éliminé en tout cas pour cette réponse-là et c'est les autres qui ont la parole. Il y aura 3 petites questions où il faudra trouver les mots manquants dans les discours que nous avons faits. Donc, j'ai pris des choses simples, des choses qui normalement vous ont marqué, surtout ceux qui l'ont dit. Donc, ça peut aider. Mais si vous l'avez réécouté, normalement, ça devrait le faire. On va commencer avec le premier élément. C'est parti, on écoute.
Vous trouvez le nom du jeu ?
Le nom du jeu. Ça, c'est un nom de jeu. Enfin, en tout cas, le jeu qui était associé à cette musique.
Sébastopol, Obradin ?
Non.
Red, Elite Dangerous ?
Non.
GP ? Witcher 3.
J'ai un doute.
Oh, le professionnel, quoi. Witcher. Normalement, non.
J'aime bien le normalement, en fait, on sait pas. Pourquoi normalement?
Parce que je confonds les deux, j'ai oublié de les noter ceux-là.
Attends, t'as oublié de noter la réponse.
J'ai juste pour celui-là.
Ah ouais, j'ai les
autres, ça n'a moindre pas le ridicule.
Non, mais madame, j'ai fait une faute, mais juste pour ce mot.
Professionnel.
Patoon, tu dirais quoi, toi? Il en reste plus beaucoup, hein, des jeux.
Il n'y a pas des autres, en fait.
Un indice, ça serait un jeu de... Normalement, c'est l'un de vous qui m'a envoyé la musique. Hein.
Sébastopol, soldat inconnu?
Non.
Alien Invasion?
Oui.
Ouais, voilà.
GP, bravo.
Red
point.
Alien Invasion.
Oui, bon, vous avez dit trois fois les mêmes réponses.
Warfare.
Je ne valide pas la réponse parce que c'est Alien Isolation.
Isolation, oui.
Ouais, tout le monde a zéro, là.
Tout le monde a zéro point. Bon, tant pis. On passe au deuxième musique. C'est parti.
Patoon.
Oui.
Elite Dangerous.
Bravo. La musique que Patoon avait choisie pour Elite Dangerous.
Ah, donc en plus tu remets les mêmes musiques, quoi.
Ah, c'est les musiques qu'on a utilisées pour le...
Il recycle le podcast.
Oui, mais c'est pour voir si vous en souvenez. Un point pour Patoon.
C'est écologique.
Pourquoi hier après-midi il m'a demandé est-ce que tu as des idées pour le quiz. J'ai dit non.
T'inquiète, je vais reprendre le premier podcast et je vais cliquer, tu vois, genre à n'importe quel moment la prise chronologique.
Une musique qui marque. On s'est tous demandé pourquoi il l'avait choisi. Un point pour Patoon. Qui c'est qui note les points? Tiens. Allez, Red, vas-y, tu notes les points. Tu triches pas. Là, on va passer sur un mot à compléter. Alors, c'est une phrase qui a été dite, je resitue, hein, qui a été dite par GP dans les débuts du podcast. Écoutez bien, il y a un mot que j'ai camouflé. À vous de le reconnaître.
Comme a dit Hitler, parfois quand on a perdu, on tuerait bien la terre entière.
Alors.
C'est clé, GP.
Gros, sa moustache.
Sa moustache.
GP.
C'est clé.
Oui.
Ouais.
On confirme.
Comme a dit Hitler,
parfois
quand
on a perdu ses clés, on tuerait bien la terre entière.
Voilà, on va chercher la référence.
Petite référence.
Un petit point pour GP, du coup. Un point pour GP. Et c'était qui le premier point, du coup?
C'était Patoon.
Ah, c'était Patoon. On va passer à une autre musique. C'est parti.
Obradine Red.
Oui. Bravo.
Moi, je vais dire GP Obradine. Je commence par mon pseudo.
Musique assez forte.
C'est vrai qu'elles sont pas mal, les musiques d'Obradine, en fait.
Mais elles sont très
les
marquées.
Les musiques de Lucas Pope sont pas mal, en règle générale. Enfin, on en connaît une, pour l'instant.
On passe à une autre...
La musique de Lucas Pope.
On passe à une autre musique. Vous êtes prêts? C'est parti.
Red.
Sébastopol.
Soldat inconnu.
Oui. Il connaît bien son jeu, au moins. Dans la... On va enchaîner donc avec une autre phrase à compléter. Alors, c'est une phrase qui a été dite par Patoon lors de son...
Gros, peu cher.
Un peu cher. Non, mais écoutez bien. Elle est un peu plus compliquée. Elle va être un peu plus dure.
Le but du jeu, c'est de gagner de l'argent, de s'acheter des vaisseaux et de réussir. Voilà, tout simplement. On peut pas, on peut jamais vraiment gagner parce qu'il y a... par contre, on
c'est
peut perdre.
C'est pas le concept.
Ouais. Voilà.
Voilà, on peut pas vraiment gagner parce que
gros, il y a pas de fin.
Bravo.
Bravo. Oh le mec, bravo. Bonhomme.
Sur le jeu Elite Dangerous.
Le but du jeu, c'est de gagner de l'argent, de s'acheter des vaisseaux.
Je pensais que c'était la vie réelle, quoi.
De réussir.
Gagner de voilà, l'argent.
Tout simplement. On peut pas, on peut jamais vraiment gagner parce qu'il y a pas vraiment de fin. Par contre, on
c'est
peut perdre.
C'est pas le concept. Esprit mercantile. Ouais.
Voilà.
Bravo, bravo Alex. Donc on a qui là? C'est ex-écho un peu.
Un point pour Eric, un point pour Gros, un point
et
pour
c'est Red
Toon et deux points pour moi.
Oh là là.
Attention, c'est lui qui marque les points. Hein.
Oui, bah oui.
Mais... On pourrait réécouter le podcast. Hein.
Alors, dernière musique, après il restera encore une petite question. C'est parti.
GP. Alors, Witcher 3.
Oui. Alors,
faux. Normalement, faux. C'est faux. C'est archi faux.
C'est pas la musique.
C'est Witcher 2.
Witcher. Mais c'était sur Witcher 3.
C'est loupé.
Mais hop, je sais pas si je la compte parce que non, dire GP au début pas, et regarder sa liste des jeux de la du
ouais,
dernier.
C'est dégueulasse.
Bon, machin. Moi je.
Excuse-moi, Obradine, il y avait même pas la première note de piano quoi.
Alex c'est l'avait, ça. Il attendait. Donc je donne le point à Alex.
Ah donc c'est à dire les deux bonnes réponses que j'ai eues, tu m'enlèves les points quoi.
Oui.
Allez, viens avec... Oh le mec.
C'est moi le patron là. On va passer la dernière. Sachant que quoi. Red à 3 points.
Ouais, on est ex aequo avec gros.
D'accord, donc ça va départager un peu les deux, à moins qu'il y en ait d'autres qui répondent.
C'est une musique ou c'est une phrase?
C'est une phrase.
D'accord. Il y a la mer noire.
La mer noire, non, pas la mer noire. Allez, c'est parti.
La mer morte.
Et ça va être très...
Vas-y, balance.
Je devrais mettre un désavantage pour Red de partir après tout le monde, normalement. Mais...
Par le jeu des alliances, la France se prépare à entrer en conflit. Quelques heures après l'annonce de la mobilisation générale, les Allemands vivant en France sont priés de quitter le pays. Et l'un d'entre eux...
GP.
Oh la vache.
Red.
Omar.
Non.
Émile.
Non. Alors il ne reste plus que trois.
Adolphe.
Non.
Mais en plus, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Quoi.
Seb.
Oh, j'en ai aucune idée.
Toi qui l'as réécouté tout à
ah,
l'heure.
Ah oui, et je ne me rappelle pas. Pas du tout.
Patoun.
Je n'en ai strictement aucune idée.
C'est un truc en deux
syllabes.
Deux
syllabes.
C'est horrible.
Une syllabe.
Deuxième sens.
Vas-y.
Karl.
On écoute.
Par le jeu des alliances, Hans. La France se prépare à entrer en conflit. Quelques heures après l'annonce de la mobilisation générale, les Allemands vivant en France sont priés de quitter le pays. Karl.
Bravo Red. Bravo Red. Red, premier avec 4 points.
Non, okay. avec 3 points.
Ah, t'as 3 points?
Avec 3 points, ouais.
D'accord. En plus, oui, je croyais que t'avais 4. Bon, ah, ouais, c'est pas fermé.
Ça dépend si Gaël lui donne mon seul point.
J'ai gagné quoi alors?
Tout notre respect.
T'auras ta musique à la fin.
Ah, j'aurai ma musique à la fin.
On
va l'annoncer ou on sait pas ce que c'est?
Bah, tu diras ce que c'est.
D'accord. Bah, déjà, l'artiste de la semaine dernière, je l'ai pas dit, c'était Flux quand même. Faut le dire.
Ah, tu l'avais pas dit?
F-L-O-E-X, non, je me rappelais plus de ça.
Ah oui, oui.
La musique de Machinarium. Et cette fois-ci, on va écouter une musique de je ne sais pas.
D'accord, on verra bien. On prendra la musique d'un autre, au pire.
Voilà, ma musique à moi.
Bon, alors d'accord.
Allez, et Red pourra annoncer la musique de Seb.
On enchaîne tout de suite avec nos What Else.
Café.
What else de la semaine dernière. Ok, donc les What else, on va commencer avec alors qui a un petit What else? Peut-être GP. Je crois que tu voulais nous parler d'un film.
Oui, je voulais vous parler de Night Call. Night Call. Putain, je suis pas très pro là, j'ai pas beaucoup d'infos. Mais Night Call, je suis allé voir au cinéma. C'est un petit film indépendant. Je crois qu'il y a 8 millions de budget. Je sais même plus par qui c'est réalisé. C'est un scandale. C'est avec Jack Gyllenhaal. C'est un film que j'ai adoré et qui raconte l'histoire de ce mec un peu loser, un peu paumé, mais surtout asocial, incapable de s'intégrer dans la société, de communiquer avec les gens, etc. Qui a du mal à trouver un boulot et qui va trouver un boulot pour lequel il se sent presque épanoui, quoi. C'est-à-dire faire le paparazzi de nuit et avec sa voiture essayer de rejoindre plus vite que les flics les lieux où, en se penchant sur la radio des flics, le lieu où il y a un accident, un drame ou quoi que ce soit, de prendre des photos. C'est un mec qui est toujours borderline. Le réalisateur, c'est Dan Gilroy. Ouais. C'est un film un peu spécial parce que tout le film, on est fasciné par ce mec qui avance, qui progresse. Et puis, en étant de plus en plus cynique et un petit peu horrible dans ses relations avec les gens, et on se dit, mais ce mec va se faire détruire par la société. Il va se faire... casematé dans une frange de la société où il sera complètement mis sur le ban de la société, sur le côté. Et au fil du film, il arrive quand même à progresser, à rencontrer des producteurs, à se faire sa place sur une chaîne télé. Et on se dit, mais comment il va se casser la gueule? C'est pas possible. Il est tellement... ce qu'il fait est tellement horrible. Et on est fasciné parce qu'on sait jamais si ce qu'il fait, ça va l'amener en haut du podium ou si il va s'écrouler complètement. Jusqu'à la fin, on hésite, voilà. Et puis à côté, ça parle de... C'est un domaine un petit peu... C'est un film, la réalisation est pas mal, ça se passe souvent de nuit. Ça s'appelle Night Call, mais ça n'a rien à voir avec le film Drive. C'est pas une suite ou quoi que ce soit. Parce que Night Call, c'était aussi la chanson, la musique principale, je crois que c'était le nom de l'album de Kavinsky qui avait fait les musiques de Drive. Donc on peut confondre, surtout que sur l'affiche, il y a marqué par le producteur de Drive. Mais d'ailleurs, ça s'appelle.
On a une affiche qui a un style graphique qui ressemble à
c'est Drive aussi. C'est un film qui passe en ce moment, c'est ça?
Il passe plus, ça y est.
D'accord, c'est sorti. D'accord. Ouais.
Mais franchement, ça a été ma claque du début d'année. C'est super bien. Ça,
le scénario est super, assez original, et en plus il est très bien monté le film, c'est-à-dire que chaque scène fait progresser sur un point le personnage qui progresse tout au long du film.
C'est assez sombre, c'est un peu malsain.
Tu l'as vu, Gaël ?
Non. Non, mais je voulais le voir. Mais franchement, c'est assez malsain. C'est
un film un petit peu coup de poing. C'est un film sur ces paparazzi qui vont chercher des images choc de l'extrême. C'est pas non plus une grosse critique ni de la télé ni du sensationnalisme. Mais et là, si vous voulez voir un film où Jack Gyllenhaal prend vraiment de l'essor et change un petit peu de son rôle de jeune premier qu'il avait dans pas mal de films, c'est idéal. Il a perdu du poids et franchement, il a un regard, il a un jeu d'acteur. Il est aidé par des très bons dialogues et en plus René Russo qui joue un rôle secondaire que je trouve vraiment bien. Mais lui est vraiment assez envoûtant dans ce film et on est envoûté par un mec complètement désagréable au possible, et c'est ça qui est vraiment surprenant dans le film, parce qu'on pourrait très bien se dire je vais voir ce film, j'ai eu la bande-annonce, après 5 minutes je vais avoir envie de me tirer parce que je me sentirais pas du tout concerné ou impliqué dans ce film.
Tu l'as vu là en début d'année là 2015 ou l'année dernière?
Je crois fin 2014, ouais.
D'accord, ok. Après, donc il faudra attendre en DVD 2015. La version DVD.
Mais il est resté très longtemps quand même dans les salles.
Je me rappelle même pas du nom. Il est
sorti des salles il y a deux semaines, même pas.
J'aimerais bien même le revoir, donc je pense qu'en DVD ça pourrait être un bon achat, quoi.
Ok.
Super. Merci. Film Night Call, plus au cinéma, bientôt en DVD avec Jack Gyllenhaal et de Dan Gilroy ou Danny Gilroy. Voilà.
Dan, ouais. Ok. Dan Gilroy, ouais. Sébastopol, un petit what else ?
Alors moi, mon what else, c'était la chanteuse Mihoon. Donc sur mon blog, je l'avais découvert sur Gameblog. C'est en fait une jeune femme qui est une gameuse, en fait, qui adore le RPG, les animés aussi japonais, genre les studios Ghibli. Et elle fait les musiques, en fait, de jeux vidéo en français. Ce qui fait qu'elle écoute les jeux vidéo, elle porte sa voix, en fait, sur les jeux. On va écouter un extrait.
J'avais tellement peur de ces moments si tranquilles, mais toutes ces frayeurs sont parties.
Donc on peut l'écouter sur YouTube, elle a une chaîne à elle, je pense. Et c'est, en tout cas, moi, c'est mon coup de cœur, j'adore, c'est de la poésie, elle chante très bien. Et donc je me suis écouté ça il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, ça commence à passer un petit peu. Et elle continue de refaire d'autres à la Kingdom Hearts numéro 2, beaucoup de Final Fantasy, parce que c'est vraiment un gros fan. Et donc faut écouter, faut y aller. Si on pouvait avoir des génériques en français sur les jeux vidéo comme ça, de cette qualité là, je suis parfaitement pour.
Ça fait très Disney.
Oui, elle aime bien aussi, oui, un petit peu, mais moi, ça passe bien. On a toujours les génériques en anglais, même si j'ai rien contre la langue anglaise, je le dis souvent, et même j'aime ça. Donc, c'est de l'avoir en français et d'avoir des cinématiques en français, ça pourrait donner un plus à certains jeux.
On pourra pas dire qu'on n'a pas l'esprit ouvert dans le podcast.
La semaine prochaine, on vous fera toute la Reine des Neiges en VO.
Non, c'est pas mal, c'est très bien. Non, c'est très bien.
Non, ça a écouté, c'est agréable.
Même en japonais, on a le japonais, on a toujours du japonais, de l'anglais, et d'avoir les versions en français, moi, c'est mon coup de cœur.
Si t'écoutes cette chanson en jouant Hatred, je pense que ça peut passer. ça radoucit le jeu. Il passe de plus de 18 à plus 7.
Voilà, à plus 7.
C'est que des gens qui s'aiment.
Voilà, exactement. Et de temps en temps, un petit moment de bonheur, de magie, et ben ça, c'est bien.
Ok, donc on passe au what else suivant, donc Red ou Gros, comme vous voulez. Gros, allez,
c'est parti. Allez, c'est parti. Petit what else, petite news que j'ai dégoté en lisant 2-3 conneries. Le jeu DayZ pour lequel je me suis tâté, enfin par rapport à Rust, par exemple, que j'ai pris.
Pas trop tâté non plus, hein, quand même, hein, dans les limites.
Je ne joue que tout seul, je fais ce que je veux. Donc les dernières petites news, le développeur du jeu, enfin le créateur du jeu, pardon, Dan Hall, est parti.
Hein.
Ce qui ne présage rien de bon, sachant qu'ils ont annoncé les dates réelles de sortie, puisqu'on est toujours sur une alpha.
Ouais, mais j'attends aussi pied ferme, hein, comme toi.
Voilà, la bêta sera prévue fin 2015.
Oh là là.
Ouais,
et le jeu sortira en première moitié de 2016.
Putain, je leur ai filé 10 balles pour rien, quoi.
Le pâté.
Voilà. Bah, surtout que Sony vient de sortir son DZ Like là il y a pas longtemps, donc
c'est quoi, c'était le H1, ouais. Ouais, c'est ça, celui, ouais, qui à qui ils ont remboursé tout le monde,
ouais.
Mais tu l'as acheté toi, Alex, non? L'alpha.
Non,
non, c'est moi qui
j'ai
l'ai pris.
Acheté l'alpha de Rust à la place.
C'est moi qui
je pense que j'ai bien fait.
J'avais on avait testé Rust ensemble, mais j'avais pris moi des Z, j'avais essayé. Bon, tout seul, c'est pas très drôle. Tu tombes sur des gens, bon, ils sont pas là pour t'aider, ils sont plus là pour te dépouiller. Et bon, le fait que ce soit une alpha,
chemise, donne-moi ta chemise.
C'est un peu ça, quoi. Et le fait que ce soit une alpha, ça reste très très pauvre en zombies, très très. Bah, ça, c'est une alpha en même temps, donc c'est normal. C'est un jeu en développement, mais on n'a pas vu vraiment d'évolution. Là, ça fait 6 mois que je suis en alpha et ça a rien bougé, quoi.
Et le développeur, il a annoncé ses raisons pour lesquelles il quittait le projet. Ou...
Il avait poney.
Il est parti pré-créer son propre studio en Nouvelle-Zélande.
Ok, super.
Donc le développeur en question, c'est quand même le plus gros mytho de la Terre, quoi. C'est le mec qui a mis en alpha un jeu qui n'était pas fini, ça a été un scandale, etc. Enfin,
donc on peut s'attendre à une fin du jeu prématurée avant derrière lui.
Peter Molineux a dirigé Xbox Games, il était pas mal aussi dans son genre.
Mais du coup, ça fait deux jeux avec le H1Z1 qui s'arrêtent, qui tentent en fait le survival horror et qui au final échoue lamentablement.
Pourquoi le H1Z1, il est sorti?
Il est sorti, mais en fait, ils ont passé un article en disant que si les joueurs n'étaient pas contents du jeu, ils remboursaient. Du fait vraiment c'est de la ça. Médiocrité de leur jeu.
C'est mieux que le Peggy, ça. Satisfait ou remboursé.
Ils ont passé un message en gros.
Ubisoft.
Vous pouvez l'essayer 2 mois, puis après, vous le rendez.
C'est un peu désolé de la qualité du jeu. On vous rembourse si vous n'êtes pas content.
D'accord.
Et je peux même rajouter un petit détail. Ceux qui sont encore convaincus que le jeu sortira et qu'il sera sympathique et qu'il vaut le coup de l'acheter, achetez-le tout de suite. Puisque dans sa version bêta il passera à 44$ et vaudra 50$ passer la bêta.
Ils y croient bien.
Ok, merci Alex pour ces petites infos. Bah Red.
Ouais, bah moi mon What Else, ça va être je crois que la dernière fois je vous avais parlé de bande dessinée et ça va continuer. Ouais. Parce que ce mois-ci je suis tombé sur une série dont j'avais entendu parler qui s'appelle Last Man. Ouais. Et je sais absolument pas si vous la connaissez. C'est écrit par 3 super auteurs français qui s'appellent Bastien Vivès, Sans la ville et Balak.
Ouais, Vivès, ouais.
Bon, je connaissais déjà le travail de Bastien Vivès qui avait sorti un bouquin qui s'appelle Paulina sur la danse, qui est hyper primé, et puis d'autres choses.
Et un bouquin aussi sur la natation, enfin.
Ouais, tout à fait. Ouais, dans une piscine où il fait une rencontre dans une piscine. Et en fait, il faut être clair, ce mec c'est un génie. C'est un petit génie en tout cas. J'espère juste qu'il va pas prendre trop vite la grosse tête, ouais. Parce que tout ce qu'il fait, il touche et ça se transforme en or. Moi j'ai dévoré ça. Il y a le 6e tome qui vient d'être paru. Et c'est, je sais pas comment je pourrais vous le décrire. Moi j'ai pris ça un petit peu comme un Dragon Ball Z pour adultes mélangé à du Mad Max. C'est génial. C'est drôle, c'est bien dessiné, ouais. C'est enlevé. Il y a 6 tomes qui se dévorent tout droit. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Honnêtement, je leur souhaite de continuer le plus loin possible. Si moi, ils m'en font 20 tomes comme ça, je les prends tous.
Last Man, c'est ça ?
Je vous conseille, ça s'appelle Last Man et c'est vraiment très bien.
T'as l'édition ou pas ?
Je crois que c'est chez Caster, je ne suis pas sûr.
D'accord.
Ok. Merci Red et Patoun. Un petit What Else ?
Oui, moi je vais revenir au cinéma avec La Crème de la Crème, réalisé par Kim Chapiron et qui est sorti le 2 avril 2014.
C'est un film français.
Un film français plutôt bon, ce qui est assez rare pour être signalé. Ouais. Donc, La Crème de la Crème, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de 3 jeunes étudiants qui sont dans une école qui est qualifiée dans le film comme étant la meilleure business school d'Europe.
Une sorte d'école de commerce. Hein.
Voilà, exactement. Une école de commerce plus. Ouais. Voilà, tous les élèves sont hyper friqués en fait. Et donc, ces 3 jeunes, ils vont essayer d'appliquer les lois du marché. Un marché plutôt particulier puisqu'il s'agit du marché du sexe. Comment ils vont faire ? Comment ils vont faire ? C'est qu'ils vont aider un de leurs potes qui galère pour pécho à sortir avec des filles. Alors, ils vont commencer par en recruter...
C'est-à-dire contre rémunération ou...
Alors... La première, il lui paye juste le taxi pour aller et venir. Il arrive à la pécho, donc ils se disent... mais
pas de
qu'est-ce
spoil,
que...
hein, pas de spoil. Hein.
Donc voilà, ils en recrutent une autre. Et de fil en aiguille, comme ça, ils montent un réseau de prostitution au sein de leur école. Ouais, voilà.
Bon. C'est pas trop malsain comme film.
Alors,
parce que moi, j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai que ça me paraît... C'est un sujet un petit peu sensible.
Alors,
quand même.
Le sujet, il est assez touchy, c'est clair. Après, le film en soi, il est un peu gentillet, je trouve. Un peu trop gentillet. Ouais. Je trouve qu'il est bon dans le sens où il ne juge pas les personnages ni ce qu'ils font. Parce qu'ils font ça d'une manière assez... Enfin,
Il n'y a pas de critique de la société, il n'essaye pas de dénoncer quelque chose ou
non,
quoi.
Clairement, sur ce qu'ils font,
il montre les faits,
point barre. Le film se divise en deux parties bien distinctes. Il y a la première qui est sur la création et l'expansion du réseau. Et la seconde qui se concentre plus sur les trois héros. Ouais. Voilà. Je voudrais revenir sur le casting. Voilà, parce qu'il y a deux acteurs qui se dénotent vraiment. La première, c'est Alice Izaz qui joue la fille du groupe. Et elle a quelque chose, cette actrice, pour jouer en fait les... Son personnage a une espèce de colère rentrée en elle, une espèce de rage, et je trouve qu'elle arrive très bien à restituer ça. Et à ce niveau-là, elle est super forte à ce niveau-là. Et l'autre, c'est Jean-Baptiste Lafarge, qui joue le rôle de Louis, le mec hyper friqué. Et il a une gueule. On sent que ce mec, il a une carrière devant lui, toute destinée pour jouer les rôles de petit enculé. c'est clair. Mais pourtant, son personnage dans le film, c'est pas un enculé du tout dans le film. Mais il a la tête qui se prête à ça, mais de ouf, vraiment.
J'espère qu'il nous écoute.
Voilà, il a un petit quelque chose et il est assez bon pour ça. Voilà. Et
la bande son. Tu m'avais parlé de la bande son.
Ah oui, je t'ai transmis une musique. La bande son est assez variée parce que. Il y a beaucoup de passages du film qui sont à soirée. Donc on retrouve beaucoup de musique électro comme Justice et tout. Mais il y a le générique de fin qui est interprété par Sébastien Tellier.
D'accord. Voilà.
Qui est assez... qui
en tout cas, l'actrice, je l'avais vue dans une émission télé où elle venait présenter le film. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose.
Ouais, elle a vraiment quelque chose.
Puis même la chanson de Sébastien Tellier, elle est sympa. Elle est bien posée.
Elle tranche complètement avec le film, je tiens à le dire.
Là, à l'écoute, c'est son dernier album, en fait. Hein, c'est sorti il y a un an et demi. Ça.
Il est au piano, c'est lui qui...
Dernière chose concernant ce film, sa fin a été beaucoup décriée. Parce que, en fait, le film, il est coupé dans son élan, en fait. Il y a un événement majeur qui se passe, et le film, il coupe.
Ça t'a frustré,
juste avant le dénouement.
Ah oui.
C'est très frustrant. C'est très frustrant, mais...
Ça se finit.
Mais d'un autre côté, il y a l'histoire qui est sous-tendue dans tout le film, qui, elle, se conclut, même si l'intrigue principale reste en suspens, et ça fait que le film, en fait, il est à l'image de ces trois héros, en fait, coupés dans leur élan, quoi.
Un peu comme à la fin de La Guerre des Mondes de Spielberg, c'était frustré.
Ouais, sauf que La Guerre des Mondes, c'est autre chose. La Guerre des Mondes, c'est tout à fait autre chose, parce que dans La Guerre des Mondes, au début du film, dans les 5 premières minutes, si tu fais attention, ils te disent comment le film va finir.
Donc c'est un film à voir.
Oui, c'est un film à voir.
Bon, j'étais assez réticent, mais pourquoi pas alors.
Ça rend curieux.
J'avais vraiment des doutes.
Ah oui, je précise aussi, il y a une bonne dose d'humour. Voilà, donc qui fait que bon, ça aide à passer aussi.
Ok, donc, merci en tout cas. Nous arrivons donc à la fin de ce deuxième podcast des What the Duck. Merci à tous. Donc vous pourrez nous retrouver tous, nous ensemble en tout cas sur iTunes ou sur le site whattheduck.fr. N'hésitez pas à nous donner votre avis afin qu'on continue à s'améliorer parce qu'on est loin de la perfection. En tout cas, pour chacun des intervenants, donc Patoon, on te retrouve donc sur le site Game Hope.
Tout à fait.
Voilà. Raid, quant à toi, toujours sur le forum du podcast Silence on joue.
Ouais, Libération. Et puis, on va aussi lancer un Facebook certainement pour le What the Duck, donc très prochainement ou même dès aujourd'hui, vous pouvez taper sur Face de Book sur le livre des images, des visages. Vous pouvez taper What the Duck et on sera dessus si vous voulez nous laisser des petits commentaires, ça nous fera plaisir.
Sébastopol, toujours sur ton blog.
Toujours sur Gameblog. Il n'y a pas de problème, on continue. Hein.
Donc sur des articles 100% Nintendo.
Non, il n'y a pas que ça.
Wii U.
Non, il n'y a pas que ça. C'est vrai que j'en rajoute un tout petit peu.
Des Japonais qui chantent en français.
Non, en fait, j'en rajoute un tout petit peu, mais c'est. Je suis multiplateforme, un peu de tout.
Et quant à donc, GP, Gros et moi-même, vous nous retrouvez sur le site whattheduck.fr.
Et derrière nos écrans.
Et derrière nos écrans, tout à fait. Dis quoi ça, ta musique? Non mais j'ai pas. Non c'est pas grave. Tant pis. C'est moi qui choisirai. Je vais mettre sa musique.
Avec elle a préparé.
Tout le monde adore Ace Attorney.
Tu peux présenter ma musique à moi.
Non.
J'ai choisi la musique. Ça sera celle en tout cas de Patoon.
Oh non. Mais encore c'est comme.
Non c'était pas lui la dernière fois.
Non la dernière fois. Ah non c'était Red. C'était Red.
Vas-y ça me vient de.
Ça sert à rien de gagner. En fait c'est le dernier podcast. Ça se fait.
Je pars. Je pars. Je fais
Donc Patoon, est-ce que tu te souviens de ton choix? Ou pas du tout.
Aucune idée.
Je me souviens de la musique, mais malheureusement, j'ai un trou de mémoire pour qui l'interprète. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un remake de Anaconda de Nicki Minaj, pour ceux qui reconnaîtront, bon courage, vous avez l'oreille, si vous reconnaissez.
Voilà, donc merci à tous, on se retrouve dans un mois, et d'ici là, profitez et jouez.
Merci,
ciao, salut. Ciao.
Au revoir
ciao,
tout le monde, bientôt. Au revoir.
Little metal, but you got much bad.